C'est bon. Bon, bonjour à toutes et à tous. Alors, excusez-nous de ce petit décalage, indépendamment du légendaire quart d'heure Poitevin, Tourangeau, Périgourdin, etc. Parce que une de nos intervenantes est en retard, mais la voilà. Voilà. Chère Catherine, on avait dit que tu arriverais discrètement. Oui. Voilà, donc j'étais en train de vous dire, nous allons néanmoins commencer en l'absence, assieds-toi, en l'absence temporaire de Catherine Coutel, une amie de la maison, députée, grande observatrice, spécialiste, actrice des phénomènes de société liés à la place. Des femmes dans la société, tous les problèmes qui sont posés et que nous essayons de résoudre à travers le débat. Donc bienvenue dans cette salle Confluence. Je suis heureux d'accueillir plein de têtes nouvelles et plein de têtes connues. Donc merci à Yves Jean, président de l'Université de Poitiers, d'être là. Lydie Baudiou, avec qui nous travaillons en relation avec la Maison des sciences de l'homme et de la société. Frédéric Chauveau, un vieil ami de la maison. Je vais vous dire un mot de cette maison. Et avant, je voulais vous présenter Héloïse Morel. Alors Héloïse nous rejoint... Son contrat de travail commence lundi matin. Alors, c'est une de vos ex-collègues, puisque Héloïse a fait ses études à l'Université de Poitiers. On s'est rencontrés il y a quelques années à l'occasion d'un anniversaire de la loi Veil, en l'occurrence. Et Héloïse a produit une exposition magnifique sur la loi Veil, son histoire, le avant et les questions pour le après. Alors, si je vous dis ça, simplement, c'est que voilà, c'est un pur produit de l'Université de Poitiers, qui s'est peu à peu mis à la médiation scientifique. Donc elle écrit dans notre revue l'actualité Nouvelle-Aquitaine et à l'occasion du départ à la retraite de Anne Bonnefoy, qui a créé un pôle d'histoire des sciences et de sciences de l'homme et de la société, avec Héloïse, très naturellement. Nous avons maintenant la porteuse d'un projet science-société qui a une place importante au sein de l'espace Mendès France. Alors d'un mot, cette salle... qui reçoit 12 à 13 000 personnes par an, et pour moi, à l'occasion des journées d'études, des séminaires et des colloques, tels que celui d'aujourd'hui, un générateur de débats, bien sûr, mais aussi un générateur de projets. Cette maison est ouverte aux projets du monde étudiant, de la communauté scientifique et universitaire, et si à l'issue des discussions et des débats, des choses émergeaient, et que vous souhaitiez aller à la rencontre de nos publics, de nos concitoyens, sachez que la maison est ouverte pour cela. Voilà, donc je ne serai pas beaucoup plus long. Je vais laisser la parole à Frédéric. Bon. Catherine, et après Yves dira un mot. Chère Catherine, alors d'abord, merci d'être là. Merci beaucoup. Catherine Coutel a arpenté les salles de cette maison depuis très longtemps, parce que la culture scientifique fait partie des projets, monsieur le président, des projets que nous développons en partenariat également avec elle. Donc je vais vous souhaiter une bonne journée de travail. La maison vous accueille pour un débat, tout est ouvert, la parole est libre, et sachez aussi que tout ce qui se passe dans cette salle est enregistré et fait l'objet de retransmissions ultérieures sur internet. Voilà, donc je vous laisse la parole. Catherine, c'est un plaisir.
Merci, de t'avoir parmi. Directeur général. Merci. Merci à vous tous. Désolée, je n'aime pas être en retard comme ça. Mais il n'est pas l'habitude à Poitiers que les colloques commencent à l'heure. Et il n'est pas l'habitude que ça soit si tôt.
Donc,
bravo. Surtout que la ville ne nous permet pas de circuler comme il faudrait. Non, peu importe. Moi, je suis avec grand plaisir parmi vous ce matin. Très heureuse d'être là à nouveau. Dans ces échanges avec la recherche, j'ai toujours pensé en tant que politique, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai été adjointe au maire de Poitiers pendant 4 mandats, avant ceux de Yves Jean, et je me suis occupée de transport et de déplacement, donc je vois un peu ce que sont des travaux dans la ville, et j'ai été 10 ans députée, puisque mon mandat s'est terminé en 2017, et à ce titre, le dernier mandat, j'étais présidente de la délégation aux droits des femmes, et pour les 40 ans de la loi Veil, nous avons fait une recommandation pour que ce soit un droit fondamental, et nous avons modifié, fait évoluer la loi Veil parce qu'elle en a besoin, même si c'était déjà un très grand pas au moment où elle est sortie. Donc je ne suis plus rien, je suis comme vous,
citoyenne.
Je suis citoyenne. attentive, mais citoyenne, tout simplement. Mais j'ai toujours pensé très utile, lorsque j'étais élue, que la recherche, qu'on puisse avoir des échanges avec la recherche. On avait une université à Poitiers, et avec vos laboratoires, Lydie, Frédéric, Marie-Josée, nous avons besoin de réflexion, nous avons besoin de votre distance, je le dis aux chercheurs. Nous avons besoin de votre pluridisciplinarité aussi, nous qui sommes toujours dans l'urgence et dans l'instant et dans la pression. Il est bon que nous ayons vos réflexions et votre prise de distance. Et l'un des derniers rapports de la DDF, c'était la recherche au service du genre. Je ne sais pas si vous avez su, en France, il y a une petite polémique sur le genre, un peu étonnante. La recherche nous a bien rendu service. C'est pourquoi j'ai participé à ces colloques depuis 2013, je crois. Nous sommes ensemble, nous cheminons ensemble, soit à Poitiers, soit en vous recevant à Paris, puisque je vous ai reçu avec plaisir deux fois à l'Assemblée nationale, en 2014, si je me souviens bien, tu me diras, Lydie, et 2016, c'est ça. Et de, oui. Bon.
26 janvier 2017.
Formidable. C'était un grand plaisir de vous avoir autour, bien évidemment, de sujets que rencontrait la délégation aux droits des femmes, qui était la violence faite au corps des femmes, le corps des femmes à travers les âges et la violence faite, l'IVG. Et aujourd'hui, c'est au cours de ces discussions que je vous avais fait part, dans les années 2014, d'associations qui nous sollicitaient pour faire entrer dans le code pénal français le terme de féminicide. Je dois vous dire qu'encore aujourd'hui, quand on l'utilise en France, il n'est pas compris. Moi, depuis que votre colloque, là, j'ai des journalistes qui m'appellent en me disant « mais on ne connaît pas ce terme ». Et d'ailleurs, j'ai essayé sur Internet, essayé de faire le correctif, ils ne vous proposent pas féminicide, hein, c'est quand vous ne l'écrivez pas correctement. Donc ce n'est pas un terme familier à la France. Cela voudrait dire qu'un auteur d'un crime sur une femme aurait des circonstances aggravantes au même titre qu'un parricide ou un infanticide. C'est ça que permettraient ceux qui pensent devoir l'introduire dans le code pénal, c'est-à-dire que ça serait une circonstance aggravante. Il faut rappeler, je ne vais pas être très longue, hein, parce que je vous ai déjà mis en retard, mais que les femmes et les filles dans le monde sont victimes de violences par centaines de millions. Des violences au sein du couple, c'est celle qui sans doute concerne le plus le féminicide, mais le harcèlement, l'agression, le viol en temps de guerre, le viol comme arme de guerre, la prostitution. Je ne sais pas si vous savez que Daesh se nourrit, s'alimente, se finance de la prostitution, la traite des êtres humains. Quand on voit les très jeunes filles sur les trottoirs avenue de la Libération à Poitiers, je ne suis pas sûre qu'elles soient là de leur plein gré et volontairement. Les mariages précoces, les mutilations génitales, les filles non déclarées à l'état civil, c'est une vraie violence. Elles n'existent pas, elles n'héritent pas, si elles disparaissent, personne n'en sait rien. Les retraits de l'école, les assassinats. Et donc ce phénomène touche des millions de femmes. Les estimations sur son ampleur sont mal connues, sont alarmantes, mal connues, y compris en Europe et en France. Et en Europe, on n'a pas de statistiques communes pour en faire l'impact. Mais l'Union européenne a calculé, je vous donne ce chiffre, hein, pour ce qu'il est dit par le service de recherche du Parlement européen, à 228 milliards d'euros par an le coût de ces violences en termes économiques, de suivi, de retrait de la société, etc. Ces violences sont bien sûr une violation des droits humains, une discrimination du fait du genre, et les victimes sont victimes de la domination masculine. Il faut appeler ça par son nom. C'est pourquoi je vous avais sollicité, hein, pour que nous puissions parler de ce sujet et voir si c'était utile de l'introduire, sachant que cette demande paraît légitime. Quand je vous le dis comme ça, vous me dites bien sûr, c'est évident, il faut le mettre dans le code pénal. Nous avons eu une demande qui paraissait tout aussi légitime, avec une pression très forte au moment de l'affaire Jacqueline Sauvage, qui était la légitime défense différée. Tout le monde s'est dit, bien sûr, c'est l'idée, c'est la bonne idée, puisque c'est une raison. Elle avait une légitime défense, mais au moment où elle a tué son mari, elle n'était pas en état de légitime défense, puisqu'elle l'a tué de dos. Donc on ne peut pas justifier de légitime défense. Et en travaillant ce sujet, on s'est aperçu que c'était une mauvaise idée de l'introduire dans le code. Que ce n'était pas une bonne notion, que c'était une notion qui pourrait être dangereuse et être utilisée de manière inopinée, et en particulier quasiment revenir à un permis de tuer. D'où nous ne l'avons pas mis dans le code pénal, mais je peux vous assurer qu'il a fallu résister à des pressions qui étaient quand même plus que fortes parmi les pétitions qui circulaient partout. Mais nous avons quand même obtenu une belle avancée en janvier 2016. Alors, je n'ai pas eu la date, j'ai eu deux dates. D'un amendement de la DDF qui dit aujourd'hui, dans le code pénal, à l'article 132-77, les crimes et délits perpétrés contre une personne en raison de son sexe comme circonstance aggravante. Donc ça, nous l'avons introduit dans l'une des dernières lois de la mandature. Donc aujourd'hui, on peut faire condamner de manière plus forte si on a tué une femme du fait qu'elle est femme. Mais après, est-ce qu'il faut le prouver? C'est toute l'interrogation. Et donc aujourd'hui, si on se pose la question, est-ce qu'on meurt en France du fait qu'on soit une femme? La réponse est oui. Est-ce que, à la question, est-ce que ce sont des crimes passionnels? Est-ce que ce sont des scènes de ménage? Est-ce que ce sont des faits divers? La réponse est non. Et je le dis aux médias, le traitement médiatique des mortes sous les coups des conjoints ne sont pas les bons traitements. On les traite comme des faits divers, on les traite comme un crime passionnel. On ne tue pas par amour. Je suis désolée. On tue parce qu'on a une emprise, parce qu'on considère que c'est sa chose, parce qu'on considère que c'est sa propriété. Et le jour où elle s'en va, sa propriété, ben on la tue. Mais à ma connaissance, ce n'est pas une grande preuve d'amour. Mais donc, je vais passer vite. Donc, c'est le conjoint qui ne supporte pas de perdre sa propriété. En France, alors j'ai repris les statistiques, mais vous les allez peut-être les dire, je ne vais pas vous les... En 138 personnes sont mortes en France en 2016 du fait du conjoint, 115 femmes et 21 hommes. Alors vous allez me dire, il y a des hommes victimes, oui. Sur ces 21 hommes victimes, 60% avaient été violents avec leur conjointe. Donc, et 9 enfants ont été tués, on les oublie souvent comme victimes, pas toujours seulement collatérales de ces scènes familiales dramatiques. Donc il faut accentuer le combat. Pour bien le combattre, il faut le connaître. Et vous le savez, vous chercheurs, l'INED relance une grande enquête qui, après 15 ans après l'enquête en fait, va nous faire découvrir la réalité de la situation. Parce que ça n'est qu'en 2000 qu'on a su qu'une femme mourait tous les 3 jours sous les coups de son conjoint. Ça a été un choc terrible. Personne ne le savait jusque-là. Il n'y avait pas de statistiques suffisantes. Cette enquête va être ouverte à une tranche d'âge plus importante qu'à 65 ans. Il y a aujourd'hui beaucoup de phénomènes chez les retraités. Peut-être que la reprise de la vie commune régulière pose plus de problèmes. Et chez des hommes. Des hommes vont être interrogés dans cette nouvelle enquête pour voir leur comportement. On a aussi pris, il faut que la loi soit appliquée, je vous passe la loi, vous la connaissez peut-être, sinon on pourra éventuellement répondre à des questions. Renforcer l'éducation, je vous avoue ne pas avoir compris la polémique qui était venue lorsque Najat Vallaud-Belkacem a voulu faire l'éducation à l'égalité, fille-garçon, parce que le terme de genre était dedans. C'est la base de notre société. Il faut que le respect entre les filles et les garçons soit appris dès l'école, dès la famille, dès l'école, et apprendre aussi aux garçons que quand une fille dit non, c'est non, ça n'est pas oui. Mais aussi aux filles à dire, vous avez le droit de dire non. Donc ça, c'est une éducation importante. Et comme la France a transcrit la Convention d'Istanbul, elle se doit aujourd'hui de mettre en œuvre toutes les mesures pour ce droit fondamental des femmes à vivre en sécurité, pour lutter contre ce que le ministère de l'Intérieur appelle de temps en temps des assassinats, des homicides ou une violence volontaire sans préméditation. Moi, je vous continue à vous poser la question, faut-il, dans le code pénal français, pour accentuer la lutte contre ce phénomène, introduire ce terme de féminicide? Merci beaucoup à vous. Merci aux chercheurs et aux universitaires qui acceptent de poursuivre ce travail. On le transmettra aux nouvelles députés. Mon remplaçant, qui s'appelle Sacha Houlier, qui ne pouvait pas être là ce matin parce qu'il est dans l'hémicycle, m'a chargé de l'excuser, mais je l'ai très nettement formé pour lui dire qu'il avait intérêt à suivre un certain nombre de sujets. Donc, il sait qu'il est attendu là-dessus, qu'il est attendu sur la prostitution, qu'il est attendu sur des sujets. Il le sait. Merci à vous.
Merci, Catherine. Bien, merci Catherine. Pour cette communication, je voyais un peu d'inquiétude concernant le timing, donc je vais être très très bref. Merci surtout Catherine pour le partenariat que tu as su nouer avec nous en tant que députée, en tant que présidente, avec l'université pour travailler ces questions. Et tu as raison de dire que ces sujets, le féminicide, mais les autres sujets que tu as évoqués, nécessitent ce partenariat entre les universitaires et puis les parlementaires. Et j'ai rencontré lundi matin les parlementaires du département et je les ai invités à effectivement cultiver ce lien avec l'université. Nous sommes très favorables, en tout cas je suis très favorable avec la communauté universitaire pour travailler avec les parlementaires sur des sujets de société qui sont essentiels. Merci Madame la Vice-Présidente, chère Lydie, pour ton travail à l'université sur la valorisation des sciences humaines et sociales. Voilà un bel exemple. Voilà, de l'utilité des sciences humaines et sociales, de l'utilité d'une démarche pluridisciplinaire. Oui. Cette maison accueille Didier. Merci pour cette maison qui pourrait intégrer à l'université, mais c'est fort bien qu'elle soit autonome, parce que nous sommes là très souvent avec beaucoup de plaisir. C'est une chance pour Poitiers d'avoir l'espace Mendès France, ce travail sur la vulgarisation, la diffusion de la connaissance scientifique, ce lieu de débat scientifique, cela... C'est un des rares lieux de débat dans la cité. Il est essentiel pour nous. On a besoin, bien sûr, du travail que vous faites sur les sciences fondamentales et la valorisation des sciences fondamentales, mais les sciences humaines jouent un rôle essentiel. Et je suis toujours frappé dans ce pays par la distance, je vais le dire comme cela, que la société met concernant les sciences humaines. On nous sollicite lorsqu'il y a des attentats, on nous sollicite lorsqu'il y a des enjeux de société majeurs et on oublie de nous financer, je le dis puisque je suis géographe. Je signale un très bon numéro de Libé sur la géographie aujourd'hui. Les sciences humaines ne sont pas traitées d'un point de vue financier par la nation à la hauteur de ce qu'elles méritent. Je salue Stéphane Bicchialo, vice-président de l'université en charge de l'égalité femmes-hommes. C'est un des axes essentiels de notre projet. Et puis Stéphane, avec le planning familial, nous a alertés et on va alerter l'ensemble de la communauté universitaire sur des viols qui ont lieu après une fête où on met du GHB dans une boisson d'une étudiante. Et là, deux étudiantes ont été violées. Ce n'est pas ailleurs qu'à Poitiers. Pour dire l'importance que l'on accorde à cela, et moi je suis très content qu'on se mobilise sur cette question, parce que lorsque j'avais vu l'ancien procureur de la République qui venait de Charente, au bout de 3 mois, on déjeunait ensemble, et je lui dis « Quelle est votre principale surprise en arrivant à Poitiers ?» J'aime bien poser cette question-là. Voilà. Et il me dit « Ma principale surprise, c'est qu'il ne se passe pas 10 jours sans qu'une étudiante n'ait été violée à Poitiers. » Et il me dit « Le dernier cas, c'est une doctorante qui a soutenu sa thèse. » Voilà. Et ce n'est pas seulement en première année. Voilà. Et qu'est-ce que l'on fait face à cela, nous, les universitaires? Comment on mobilise la communauté? Comment on informe les étudiants, les étudiantes de ce qui se passe? Et ça ne se passe pas ailleurs. Tu as raison de parler de la prostitution à Poitiers, mais aussi cette question du viol des étudiantes. Donc, je dis cela car... Le colloque qui est organisé aujourd'hui avec les collègues des universités parisiennes, avec les collègues qui sont mobilisés sur cette notion, c'est un colloque essentiel qui nécessite une démarche pluridisciplinaire. Et merci à Marie-Josée, à Frédéric Chauveau. J'étais surpris, des étudiantes de Poitiers ne connaissent pas Frédéric Chauveau, je veux dire, spécialiste des crimes en tout genre, quoi. Enfin, je veux dire, donc quand même, une personnalité vivante, parce qu'on a des personnalités qui sont décédées, mais glorifions les personnalités vivantes dans cette université, Ludovic. Les collègues qui, depuis plusieurs années, avec toi, Catherine, ont travaillé sur cette démarche des corps violentés, des corps outragés, du viol, et sur cette question du féminisme. L'objectif de ce colloque, c'est aussi de produire un ouvrage pour préciser cette notion qui reste floue, qui est perçue différemment en Amérique latine et en Europe, qui n'est pas totalement prise au sérieux à l'échelle internationale. Donc l'on a, et tu as raison de dire cela, on a besoin de mieux connaître, de mieux définir pour pouvoir agir. C'est le rôle des universitaires et des universitaires engagés dans la cité. En tout cas, merci aux collègues qui ont organisé ce colloque et à toutes celles et tous ceux qui sont mobilisés pour intervenir aujourd'hui, ce qui permettra aux uns aux autres de mieux connaître cet enjeu de société majeur à la fin de la journée. Merci.
Merci à tous les deux de cet accueil et merci Catherine d'être toujours là avec nous. Merci à nos collègues qui ont accepté d'être présents à cette... Là, Catherine, ton sac. C'est un projet collectif, on l'a répété à plusieurs reprises. C'est un projet pluridisciplinaire que nous menons depuis effectivement plusieurs années ensemble. Je l'ai résumé ici en quelques points qui justifient l'antériorité là. La délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes nous a soutenus depuis le début de ces travaux. L'Université de Poitiers, notre, il faut le dire, principal financeur, et la région Nouvelle-Aquitaine, qui aussi nous aide à l'organisation et au soutien financier de ces manifestations. L'objectif a été résumé par le président Yves Jean. C'est la recherche universitaire pluridisciplinaire qui répond à des enjeux de société. Jusque-là, nous avons, dans ce projet, mené deux colloques internationaux pluridisciplinaires, deux journées d'études. Je vais vous passer juste les images parce qu'on en est très fiers et elles sont très belles. Des publications, cette exposition, une femme sur trois, qui reprenait les chiffres que donnait Catherine à l'instant. Cette exposition va à nouveau avoir une vie, une deuxième vie à l'UFR SHA, au centre-ville, puisqu'elle va être remaniée et l'inauguration et le vernissage aura lieu début novembre, le 6 novembre. Donc vous êtes conviés. Elle a été hébergée ici pendant plusieurs mois à l'espace Mendès France. Vous reconnaîtrez sans doute cette iconographie. J'y tiens et je veux juste dire un petit mot sur les images aussi, puisqu'on sait combien les images sont fortes parfois pour faire passer des messages et en tous les cas pour qu'ils restent un peu plus longtemps que des mots. Cette image est due à un dessinateur de BD qui s'appelle Silver, qui travaille avec nous à nouveau sur ce projet et on est très fiers de ses créations et je crois des messages que disent les yeux de cette jeune femme. Le féminicide, puisque c'est ça qui nous rassemble aujourd'hui, c'est notre deuxième journée commune. Catherine Coutel nous avait accueillis à l'Assemblée nationale, ce qui pour nous était effectivement le deuxième moment de nos travaux collectifs. C'était en tout début d'année. C'était plutôt une journée, on va dire, de défrichage des mots, en termes juridiques particulièrement, mais pas seulement. Aujourd'hui, voilà, des publications, parce qu'on a aussi publié à la suite de nos colloques. La journée ici est organisée en quatre temps, qui vont commencer sous la présidence de Ludovic Gossot à l'instant et Marilène Lapalu va ouvrir le bal, si je peux dire les choses ainsi. Il y aura une troisième journée puisque nous travaillons avec deux collègues de Paris Diderot qui se sont cachés tout au fond là-bas, faisant semblant qu'on ne les voit pas, qui nous accueilleront le 2 décembre, Laurie Loffer et Béatrice Sandos, puisque c'est à la fois pluridisciplinaire, mais hors les murs de Poitiers, et ça fait du bien de venir vous visiter aussi. Le 2 décembre, la troisième journée aura lieu à Paris Diderot, et nous envisageons, vous l'avez compris, de publier les actes de ces colloques. Je voulais juste terminer aussi par une manifestation dans le cadre du festival d'égal à égal, que nous organisons grâce au partenariat avec Stéphane Bicchialo, le mercredi 15 novembre, ici à Mendès France, une conférence d'Isabelle Steyer, qui est avocate et qui travaille particulièrement sur la cause des femmes et des enfants. Et c'est un partenariat à nouveau avec Mendès France et nous en sommes très fiers de ces échanges et avec le festival d'égal à égal. Voilà. Je voulais juste dire une petite chose très personnelle. Voilà. Moi, je suis très, très fière quand nos étudiants deviennent des grands étudiants autonomes, mais c'est avec une énorme fierté que Héloïse Morel nous reçoit ici. C'est une belle histoire qui commence pour elle et pour nous, enseignants, c'est une belle fierté. Voilà. Je vais passer le micro à mes collègues.
Merci. Bien, donc bonjour. Alors, je vais aller à l'essentiel. L'idée dans cette courte introduction, c'est de vous présenter peut-être quelques éléments, mais très rapides, bien sûr, sur l'apport des différentes disciplines, puisque tout à l'heure, il a été dit que la notion de féminicide nécessitait des regards croisés, des approches variées, et il n'est pas possible, évidemment, qu'une seule discipline puisse prétendre faire le tour de cette question-là. Alors, évidemment, plus on traite de sujets de société, nul doute que la collaboration entre différents collègues et différentes disciplines devient donc aujourd'hui une nécessité. Alors, voilà. Alors simplement, en ce qui concerne les mots et les repérages, d'un point de vue historique, on peut se poser la question, elle semble tout à fait légitime, à quel moment donc le mot féminicide est-il apparu, en tout cas dans la langue française, et quels ont été éventuellement ses usages, sa compréhension, sa réception. Alors, on trouve très tôt, finalement, donc au XIXe siècle, dans un périodique qui s'appelait Le Monde illustré, quelques indications sur le féminicide. Alors simplement, la notion de féminicide est un petit peu donc éloignée de celle d'aujourd'hui. Alors, je ne vais pas ici vous faire, si je puis dire, un cours de lexicographie, ce n'est pas mon propos. Mais on voit par exemple que dans un certain nombre de périodiques, on parle de lacet féministe. Et le lacet féministe, à ce moment-là, vous voyez, l'acception est tout à fait différente. Ça veut dire tout simplement que c'est les femmes qui auraient une emprise sur les hommes. Voilà. Et donc, après ça, on laisse aller le mot féminicide. Donc, vous voyez, la notion n'a pas grand-chose à voir. Alors, par contre, après, on a un article du Rappel, qui était donc un périodique engagé en 1887. Le mot, donc, féminicide apparaît. Et à ce moment-là, le terme est assez proche, finalement, de notre acception. C'est effectivement, donc, un crime ou une exaction commis contre des femmes. Et si on poursuit rapidement ce tour d'horizon, vous avez un autre périodique, Le Radical, avec évidemment une contribution d'Hubertine Auclert que je n'ai pas besoin de présenter, donc féministe particulièrement donc engagée, qui ne se contente pas des questions des droits civils, mais veut aussi donc s'attacher à la question électorale. Et en 1902, donc, le fait d'évoquer la loi féminicide, c'est tout simplement donc une loi qui irait à rebours des considérations et qui briderait donc un petit peu les possibilités d'expression des femmes. Alors maintenant, dans un certain nombre de dictionnaires, ça évidemment, ça reste important, mais le mot féminicide apparaît simplement en 2015 dans le dictionnaire Robert. La définition est un petit peu minimaliste, mais elle a évidemment donc l'intérêt d'exister. Meurtre d'une femme, d'une fille en raison de son sexe. Le féminicide est un crime reconnu par plusieurs pays d'Amérique latine. Donc là, évidemment, ça laisse suggérer que cette notion n'est pas européenne, mais qu'il faut la prendre en compte et qu'elle peut être importante. Alors, tout à l'heure, Catherine Coutel a évoqué donc la Convention d'Istanbul qui date de 2011. Et c'est une convention du Conseil de l'Europe. Et à ce moment-là, on tourne un petit peu autour de la notion de féminicide, puisque si on regarde les expressions ou les mots, on voit violence sexiste, violence à l'égard des femmes, violence de genre. Donc ces mots figurent bien dans le texte, mais on voit que le féminicide en tant que tel n'est pas totalement, bien sûr, redéfini. Alors si on poursuit maintenant pour arrive à l'essentiel. Le féminicide pose évidemment des questions donc d'échelle, des questions de seuil. Ça pose aussi la question théorique de la violence systémique. Et quand on regarde un petit peu la littérature, notamment la littérature anglo-saxonne ou canadienne, on voit par exemple des notions comme fémicide. Et le fémicide, c'est pas tout à fait le féminicide. Donc on voit fémicide intime, fémicide conjugal, ça c'est vers 1990. En 2010, on introduit même une nouvelle notion pour montrer que là, on change d'échelle, c'est le génocide. On parle aussi de violence ordinaire et de violence extrême. Et effectivement, donc, je reviens sur ce que disait Catherine Coutel tout à l'heure, dans le traitement donc, des faits divers, on parle aujourd'hui même de drames familiaux, alors qu'évidemment, c'est un crime de propriétaire, là, il n'y a pas de doute de ce côté-là. Bien. Alors, histoire et actualité de la violence contre les femmes. Alors là, je donne juste deux indications, mais je ne développerai pas pour laisser davantage la parole aux autres intervenants. Mais d'un point de vue donc historique, ça pose au moins deux types de questions qu'il faudrait essayer de résoudre. Là, je me contente de poser les problèmes sans apporter de réponse. Mais tout d'abord, c'est la perception. Quelle a été la perception donc du point de vue historique des violences faites contre les femmes et le fait qu'il existait une violence différenciée. Donc ça, c'est un vrai problème historique puisque on ne connaît pas précisément donc la réponse. Alors, il faudrait le faire évidemment pour la France à l'échelle européenne et bien sûr à l'échelle mondiale. Ensuite, deuxième élément, c'est les manières de faire. Donc là, c'est plutôt les collègues allemands qui ont travaillé sur la violence sur ces aspects-là, en disant que finalement, la logique ou le mobile importe peu. Et ce qui est tout à fait donc pertinent, c'est d'essayer d'examiner la manière dont on s'est approprié le corps de l'autre et la façon dont on a ôté la vie à autrui. Et là, il est évident qu'à ce moment-là, la distinction par sexe, le féminicide, évidemment, donc, joue un rôle essentiel pour comprendre voilà, le déroulé donc, des faits. Ça, c'est le 19e siècle. Ça, je le montre régulièrement, mais c'est la première vignette, sans doute, à la fin du 19e siècle, où on voit, là, il n'y a pas de doute. Alors, mes collègues voilà, sourient parce que c'est une sorte de monomanie, si vous voulez, picturale. Voilà, je reviens régulièrement à la rescousse. Ces collègues ne veulent absolument pas qu'on publie cette vignette, mais voilà, j'insiste lourdement. Mais c'est dans un périodique illustré des pseudo-mémoires d'un policier. Et on voit donc à ce moment-là une scène, il n'y a pas de doute, il s'agit donc d'un viol et d'une femme qu'on a tuée. Mais on voit bien que par l'image, évidemment, cette représentation donc, profane apparaît donc très tardivement donc, du point de vue historique. Voilà. Alors si je continue, donc, la violence ne s'exerce pas de la même façon contre le corps des hommes et celui des femmes. Il y a bien des violences de genre. Dès lors, les violences peuvent être lues et interprétées d'une autre manière. Ça ne présente pas de doute. Et simplement, donc, souvent, cette perception, pour l'échelle plus récente, fonctionne souvent par indignation. Puisque l'indignation, donc, je ne vous apprends rien, c'est une émotion morale et politique. Et à ce moment-là, ça fonctionne par cycle. On avait consacré une journée d'études aux sœurs Mirabal qui avaient été assassinées. Donc, 25 novembre 1960. Le 25 novembre, vous le savez, est devenu une date emblématique et anniversaire. Ensuite, vous avez d'autres récits, donc, plutôt en Amérique latine en 1981, mais qui ont permis à ce moment-là donc, d'attirer l'attention sur le féminicide. Le fait que des femmes, des civils, voilà, avaient été tuées, maltraitées parce qu'elles étaient des femmes et par rapport à leur conjoint, elles n'avaient pas péri de la même manière. Et puis, Rigoberta Menchú, qui avait été donc prix Nobel, en 83, donc 92, donc, signale plus précisément donc, voilà, le fait qu'au Guatemala, ben, il y a eu toute une série d'exactions contre les femmes, avec notamment possession d'une manière particulière du corps de ces femmes. Donc finalement, ce qu'il est important de suivre, c'est le contexte, les circonstances, le mobile. On peut donc toujours repartir du même constat. Comment va-t-on s'approprier donc, le corps des femmes ? Brutalisation corporelle, brutalisation psychique, viol, mutilation, torture, traumatisme, menace. Ce qui nous amène évidemment donc à d'autres questions qu'on peut évoquer dans la conclusion. Je me contente juste de vous le montrer. C'est tout simplement, donc là, dans le cas de la domination donc masculine, c'est la double facette, si je peux dire, de la haine et du mépris. Parce qu'il y a une haine des femmes, par exemple, à la fin du 19e siècle, qui est absolument sidérante. On l'a parfois donc un petit peu oublié, mais il y a des textes, évidemment, qui s'inquiètent du fait que si on donne le droit de vote aux femmes, on assisterait à une Saint-Barthélemy des hommes. Vous voyez, donc là, on ne fait pas dans la nuance. Voilà. Bien. Alors, tout simplement, donc, ces indications donc, vous montrent bien que la question de la haine et du mépris, évidemment, de l'éducation, pose des problèmes également donc, historiques, sociologiques et psychologiques. Et donc le féminicide ou la reconnaissance, c'est bien l'histoire d'un combat. Et là aussi, c'est le poids des images. C'est une photographie qui vient de 2000 ans, puisque la ville italienne s'était particulièrement mobilisée et ils avaient mis une paire de chaussures rouges pour toutes les femmes qui étaient décédées. Donc on le ferait ici en France en choisissant une ville. Tous les trois jours, on mettrait sur le trottoir ou sur un pont une paire de chaussures rouges. À la fin de l'année, vous voyez le nombre de paires de chaussures. Il est évident que là, ça impressionnerait sans doute l'opinion publique. Je vous remercie.
Bonjour à toutes et tous. Je vais juste illustrer en tant que sociologue la spécificité et éventuellement l'apport d'une perspective sociologique sur le phénomène. Alors, sa spécificité, c'est forcément d'interroger la dimension sociale et collective du phénomène. Ça va être notamment de suggérer que, au-delà de la personne, c'est la catégorie ou la classe de sexe qui est visée, le genre. Suggérer donc que ce crime s'inscrit dans et reproduit, par hypothèse, un rapport social de sexe, une valence différentielle des sexes, qui définit donc un pôle dominant et un pôle dominé. L'apport de la sociologie sera du coup d'appréhender, de chercher à appréhender tous les acteurs du phénomène, leurs caractéristiques, le contexte historique, culturel, politique, économique, c'est-à-dire les auteurs, bien sûr, les victimes, mais aussi le tiers ou les tiers à ne pas exclure. Alors, notamment les effets en termes de contrôle social sur les femmes et parfois aussi les effets de la médiatisation, la dramatisation, l'individualisation aussi de ces violences, les effets en termes de contrôle social notamment. L'apport de la sociologie, ça pourra être du coup de ne pas refermer trop rapidement le dossier, comme Catherine Coutel le disait tout à l'heure, en renvoyant ou en rabattant le phénomène sur la misogynie, sur le machisme de certains hommes, mais d'être sensible à, comme disait Durkheim, la régularité statistique du phénomène et à sa quasi-universalité. Donc, ne pas renvoyer trop rapidement à la misogynie, au machisme, aux perturbations psychologiques des auteurs, comme on peut tendre à le faire, parfois un peu rapidement, ne pas rabattre trop rapidement le phénomène sur la fragilité, la vulnérabilité de certaines femmes, mais interroger les dimensions sociales, voire systémiques, les rapports sociaux de sexe, les rapports sociaux de sexe variables selon les pays, selon le moment historique, rapports sociaux de sexe au sein desquels les violences contre les femmes, y compris celles entraînant ou visant la mort, prennent sens. Voilà, donc comme on est déjà un petit peu en retard, je pourrais développer, mais je vais passer tout de suite le micro à Marie-Josée Guillaume.
Merci Ludovic, qui va être également relativement rapide, parce que aborder les différents apports qui peuvent être ceux de la psychologie, enfin, d'orientation psychanalytique en particulier concernant le féminicide, ça pourrait nous prendre beaucoup de temps. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a une thèse qui est en train de s'achever à ce propos de violences conjugales, alors qui peuvent aller jusqu'au meurtre, bien sûr, dans les meurtres de femmes au sein du foyer. Dans un cas, c'est à la suite de violences répétées, habituelles, on pourrait dire, coutumières, dirait presque des juristes. Mais dans l'autre cas, il n'y a pas eu de violence physique, en tout cas. Et tout à coup, effectivement, le meurtre surgit. Donc une thèse qui va être soutenue le 28 novembre par Louise Attani et qui s'interroge justement, et c'est pour ça que je prends cet exemple, ce point de départ, sur l'articulation entre l'anthropologie, autrement dit les fondements de représentation du genre qui sont ceux d'une culture donnée. Elle travaille à cheval sur la culture européenne et les cultures africaines. Donc, niveau anthropologique, niveau social, bien sûr, avec ce que vient de rappeler Ludovic, il y a des logiques genrées qui sont toujours existantes, prévalentes. Moi, j'aime bien la valence différentielle des sexes que de Françoise Héritier, par exemple, qui a dit « mais on est bien loin de la voir disparaître ». Donc, le niveau psychologique au sens strict, il ne peut que s'articuler à ces autres plans. Autrement dit, pour sortir justement de raccourcis un peu gênants, qui est, mais c'est celui-là qui a tué sa femme parce qu'il est devenu fou, oui, on sait, il est plutôt paranoïaque. Mais la question de fond, alors bien sûr qu'on a ce niveau-là de la personnalité, qu'on va apporter des éléments là-dessus, mais la question de fond, c'est qu'est-ce qui donne le droit de tuer à un être humain, un autre être humain. Et je pense qu'en fait, c'est une question qui interroge notre culture, les autres cultures, mais la nôtre encore en particulier, et qui signifie que nous avons quand même encore du mal à pouvoir penser notre identité, alors que l'on soit homme ou femme, parce que les hommes souffrent aussi, nous avons encore du mal à penser notre identité en prenant en compte celle de l'autre. Pour être un petit peu plus complexe, on peut même aller jusqu'à dire que nous n'avons pas d'identité si nous n'intégrons pas, si nous n'intériorisons pas la part de l'autre, la part de la différence de l'autre en nous. Et cette part de la différence de l'autre en nous, si on se situe au plan du rapport des genres, c'est pour un homme pouvoir intérioriser la part du féminin en lui-même et de la reconnaître et de penser son identité à partir de cette différence. Et à l'inverse, pour une femme, c'est pouvoir intégrer une part du masculin, une part de l'autre que soi, pour pouvoir aussi se différencier et s'identifier. Alors ce sont des processus bien sûr complexes, mais dans le travail clinique, on y a accès. Et donc ce que je veux dire, c'est qu'au bout du compte, il faut encore se reconnaître que pour penser son identité dans la culture, notamment dans les rapports hommes-femmes, on va en venir à une pensée de la radicalité. Or, c'est à la mode, la radicalité. l'islamisation, la radicalisation de la pensée, et pas seulement dans le monde de l'islam. Autrement dit, je crois que ce que peut éclairer la psychanalyse, notamment avec une notion freudienne qui est celle du refus du féminin, c'est comment on peut en venir à une pensée coupée complètement de celle de l'autre, à une identité qui se donnerait le droit d'exister sans penser et sans intégrer la différence de l'autre. Et je crois que l'enjeu psychique fondamental qui est loin d'être dépassé, c'est ce refus du féminin, hein, qui peut donner lieu à des meurtres collectifs, à ces viols de guerre, etc., etc., au fait que la femme est traitée autrement que l'homme. Comment faire, comment prévenir, comment traiter des sujets, des jeunes, les enfants, les garçons, les filles, pour que finalement, il n'ait pas cette peur ancestrale, hein, que la femme vienne à les engloutir. Allez voir les figures mythologiques qui sont les nôtres dans le rapport au féminin, donc dans ce refus du féminin. Hein. Je crois que si nous allons nous nourrir, hein, de croisements interdisciplinaires, là je m'adresse en particulier à Lydie, qui connaît la mythologie antique sur le bout des doigts. Nous pouvons peut-être, en acceptant de penser que la différence a toujours fait peur à l'homme, hein, aller vers une forme de différence. Pour conclure, je dirais que si la psychanalyse peut nous apporter quelque chose dans ce champ d'étude, c'est en nous interrogeant sur nos tendances à la radicalisation. Et ça concerne aussi, d'une certaine façon, les mouvements féministes. Donc méfions-nous d'une pensée qui exclut toute différence pour se poser en s'opposant, parce qu'au bout du compte, c'est une pensée vide. Je vous remercie.
Oui. On va pouvoir démarrer tout de suite la première séance. J'appelle donc Marilène Lapalu et Myriam Hernandez qui est là. Super. Je ne sais pas si on a des... Ouais, super. Est-ce que vous utilisez les diapositives ou pas du tout? Oui, d'accord. Donc alors, le temps d'installer le matériel. Je dis deux mots des deux premières interventions. Donc celle de Marilène Lapalu, c'est bien vous qui commencez, de l'Université Lyon 2, et qui va porter son... Alors, il faut peut-être faire la manip, ou alors voir s'il y a une autre... Je ne sais pas. Il n'y a plus de place. Voilà, de l'Université Lyon 2, hein, féminicide, vous pouvez lire comme moi, vous avez le programme, impunité, responsabilité sociétale. Marilène Lapalu va donc mettre l'accent, effectivement, sur le contexte, sur la dimension potentielle d'impunité dans lesquelles le féminicide, les crimes des femmes en raison de leur sexe peuvent avoir lieu. Donc sur cette responsabilité collective qui permet de comprendre aussi la perpétuation de certains crimes, crimes contre les femmes notamment. Myriam Hernandez, puisque finalement on pourra avoir un bref échange après les deux interventions, bref parce que nous n'avons pas beaucoup de temps et qu'il faut aussi une petite pause, je crois que quelque chose est prévu, avant de commencer la deuxième séance. Myriam Hernandez de Paris-Est, qui fera une présentation, elle, sur la publicisation, la politisation, la légalisation de la lutte contre le féminisme, en particulier au Chili. Et toutes les deux, je crois, évoqueront la question de l'importation éventuelle du concept de féminicide, voire de la lutte et de la légalisation de la lutte contre le féminicide dans le contexte français. Voilà, je vous passe le micro.
Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je travaille actuellement sur les espaces de résistance contre le féminicide dans la capitale mexicaine, à Mexico, où l'impunité renvoie actuellement, en effet, à la responsabilité des institutions, de l'État. Donc, vous avez une photo sur la diaporama où on voit clairement que la population renvoie l'impunité du féminicide à la responsabilité ici de l'université, de l'UNAM, par rapport au meurtre d'une étudiante sur le campus de l'université. Mon intervention aujourd'hui a pour but de montrer l'intérêt qu'il peut y avoir à réfléchir à la définition du concept de féminicide et en particulier à la place faite ou pas à la notion d'impunité dans cette définition. Alors, comme ça a été dit tout à l'heure, quand on parle de féminicide en Europe, on a parfois tendance à réduire le concept à un seul niveau de causalité, c'est-à-dire au fait que des femmes sont assassinées en raison de leur sexe. Donc tout à l'heure, on a vu la définition du petit Robert, donc, que j'ai remis ici, donc le meurtre d'une femme, d'une fille en raison de son sexe. Alors que si on s'intéresse aux définitions des chercheuses latino-américaines en particulier, les définitions sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus riches, et articulent deux niveaux de causalité. Ces femmes sont assassinées parce qu'elles sont femmes, mais aussi parce que l'État laisse faire. D'où l'importance de cette notion d'impunité. Pour qu'un féminicide ait lieu, convergent de manière criminelle le silence, l'omission, la négligence et la collusion partielle ou totale des autorités chargées de prévenir et d'éradiquer ces crimes, leur cécité de genre ou leur préjugés sexistes et misogynes sur les femmes. Donc là, c'est une définition de Lagarde, intellectuelle mexicaine. Alors, je suivrai un plan en trois parties. Dans la première partie, il s'agira de retracer le parcours de cette notion d'impunité dans la définition du féminicide, depuis les origines nord-américaines du concept de femicide jusqu'à la définition mexicaine. La deuxième partie traitera de l'usage politique et militant de la notion d'impunité, qui est aujourd'hui synonyme de mise à l'épreuve des institutions de l'État. Et la troisième partie interrogera le transfert possible de la notion d'impunité dans un contexte français ou européen. Donc, comme cela a déjà été rappelé précédemment à Paris, le concept de féminicide prend sa source dans le concept nord-américain de femicide, défini par les nord-américaines Diane Russell et... je ne me souviens plus de son prénom... c'est de Jill Radford en 92. Si on s'intéresse aux définitions qu'elles donnent dans leur premier ouvrage en 1992, on relève régulièrement une mise en cause de la société dans la violence contre les femmes, en particulier des médias et des juges. Donc au-delà de la simple définition d'un meurtre d'une femme parce qu'elle est femme, leur discours définitoire est beaucoup plus large. Et les médias sont accusés de complaisance envers les meurtriers. Les auteurs reprochent aux médias soit leur indifférence, soit une exploitation au contraire voyeuriste des cas de violence. Et les auteurs soulignent comment les juges permettent aux assassins de ces femmes de ressortir libres ou avec des peines très légères. Au final, l'attitude des médias et de la justice relève de ce qui est appelé ici une propagande anti-femme, des attitudes qui, au final, encouragent la violence contre les femmes et redoublent cette violence. Donc, même si le mot impunité n'est pas signalé dans la définition des nord-américaines, on sent déjà, on peut voir cette notion d'impunité qui se dessine en sous deux angles. L'impunité comme absence de châtiment pour les meurtriers, c'est-à-dire les coupables sont punis, ne sont pas punis ou pas assez sévèrement punis. Et puis, sous un autre angle, l'impunité, c'est aussi l'absence de danger pour les meurtriers, c'est-à-dire qu'au niveau sociétal, il n'y a pas de condamnation publique de cette violence. Donc le mot n'apparaît pas, mais on a déjà ce contexte, les médias, la justice. À la fin des années 90, début des années 2000, la mexicaine, donc Marcela Lagarde, avec d'autres intellectuelles mexicaines, reprennent le concept de femicide pour expliquer les assassinats qui ont lieu à la frontière nord du Mexique et dont il a déjà été question dans la première journée d'études. Et elle souligne, elle aussi, l'attitude des médias et des autorités vis-à-vis des victimes et des coupables. Dans les discours officiels et dans la presse, les coupables sont des coupables que l'on ne peut pas juger, des fous, des malades mentaux, des étrangers, des mafieux, des assassins en série, dans tous les cas, des coupables que l'on ne peut pas attraper difficilement, que l'on ne peut pas condamner. Les victimes sont placées dans un rôle de coupable, ce sont de mauvaises filles, des folles, des filles aux mœurs légères, quand on n'a même parfois pas de victimes du tout, puisque si ce sont des disparus, on n'a pas de corps, si ce sont des inconnus, on n'a pas d'identité, ou des migrantes. Les Mexicaines soulignent comment les thèses explicatives développées dans la presse ne sont au final que des excuses et empêchent de penser et de résoudre les meurtres et la violence masculine. Donc parmi ces excuses, on retrouve l'instinct meurtrier du serial killer, la maladie mentale, la passion amoureuse, le contexte social, voire même la crise économique, ce que Gérard Mauger pourrait appeler des explications omnibus, hein, c'est-à-dire destinées à cacher la réalité de ces crimes. Donc, quand Lagarde explique le choix qu'elle fait du mot féminicide et de la syllabe supplémentaire ni, par rapport à femicide, elle dit que, en effet, c'est pour qu'on ne fasse pas le parallèle entre fémicide et homicide, auquel cas le fémicide ne serait que le meurtre d'une femme. Mais elle précise également que cette syllabe supplémentaire marque un contexte d'impunité responsable de la violence contre les femmes. Donc là, elle a une définition assez extensive de l'impunité. Il est question de complicité des institutions, de collusion des autorités, de négligence et de tolérance sociale. Elle peut en outre s'appuyer sur la définition de la violence contre les femmes formulée par la Convention de Belém do Pará, qui inclut, elle aussi, dans sa définition, la possibilité de la responsabilité de l'État, violence perpétrée ou tolérée par l'État et ses agents. Donc c'est déjà prévu aussi dans les traités internationaux. Donc au final, la notion d'impunité permet aux Mexicaines de pointer la responsabilité de l'État et d'exiger de sa part des réponses et des réformes. C'est un moyen de faire pression sur l'État. Donc il me semble que l'on peut véritablement parler d'une mise à l'épreuve des institutions étatiques par cette notion d'impunité. Lagarde allant jusqu'à définir le féminicide comme un crime d'État. Donc là, l'expression est très forte, hein, crime d'État. Les conditions du féminicide sont réunies quand l'État ou certaines de ses institutions ne donnent pas les garanties suffisantes aux filles et aux femmes et ne créent pas des conditions de sécurité qui garantissent leur vie dans la communauté, à la maison, dans les espaces de travail, de transit ou de détente. Et plus encore quand les autorités ne remplissent pas efficacement leurs fonctions. Quand l'État est une partie structurelle du problème de par sa dimension patriarcale et de par son attachement à préserver cet ordre, le féminicide est un crime d'État. Donc on note dans cette définition du féminicide les attentes également de réformes qu'on souhaite. Elle attend donc des garanties de sécurité renforcées pour les femmes, des mesures de formation pour les autorités policières, par exemple, et une réforme de l'État qui doit se départir de sa dimension misogyne. Alors, toujours pour suivre un peu le fil historique, quand Lagarde accède aux fonctions de parlementaire, de députée en 2003, elle va pouvoir former autour d'elle une équipe de chercheuses qui va travailler dans une commission qui s'appelle elle-même la commission féminicide et qui va réaliser une enquête de grande ampleur dans le pays. Et à partir de cette enquête, où on trouve des cartes qui s'appellent cartes d'impunité d'ailleurs, elle va pouvoir légitimer une action de l'État. Et donc le but est de faire passer le féminicide d'un concept sociologique à une catégorie pénale. Dans ce passage du sociologique au pénal, l'impunité tient une place centrale que l'on retrouve dans la loi générale d'accès à une vie libre de violence votée fin 2006. Donc on trouve le concept pas de féminicide parce qu'apparemment elle n'a pas réussi à le faire passer, c'était trop gênant, mais on a quand même la violence féminicide, entendue comme la forme la plus extrême de violence de genre envers les femmes, issue de la violation systématique de leurs droits humains, dans le domaine public comme dans le privé, comprenant l'ensemble de conduites misogynes qui peuvent impliquer l'impunité sociale ou de l'État, donc là on retrouve les deux pans, la société et les institutions, et qui peuvent culminer dans le meurtre ou dans d'autres formes de mort violente des femmes, par exemple des suicides ou des, comment on pourrait dire, des faux suicides, au sens où ces femmes ont été poussées au suicide. Hein. Alors, je voulais m'arrêter un petit moment sur l'article 26 de la loi générale qui, moi, me paraît très important et qui met en place un mécanisme qui s'appelle l'alerte de genre. Donc, c'est un mécanisme qui est censé pouvoir être déclenché par les organisations de la société civile et qui engage l'État à répondre, à prendre des mesures pour lutter contre la violence contre les femmes. Alors bien sûr, là, bon, je me suis mis à chercher un peu ce que c'est devenu au fur et à mesure. Et puis en fait, tout ce que je vais vous lire là a pratiquement été enlevé de tous les de toutes les lois qui ont été votées dans les différentes régions. Au départ, dans l'alerte de genre, l'État donc s'engageait à accepter sa part de responsabilité dans les dommages commis et s'engageait à réparer. On s'engageait à sanctionner les actes des autorités négligentes, à mettre en place des politiques publiques et, la dernière, à faire publicité de la vérité. Donc on essayait de pousser les institutions également à communiquer sur leurs responsabilités. Donc on comprend que ce soit très gênant pour l'État. Donc on attend de l'État qu'il communique sur sa responsabilité dans la violence contre les femmes. Bien sûr, il ne le fait pas, il ne le fait toujours pas. Et donc, ce sont les militantes qui vont se charger de cette communication. Alors, deux exemples de communication de la responsabilité de l'État. D'abord, avec la diffusion de la condamnation des cas du Campo Algodonero et de la responsabilité de l'État mexicain. Donc, en 2009, des avocats et des avocates, des victimes du Campo Algodonero, donc ce sont des fillettes qui ont été tuées à Ciudad Juárez et dont les corps ont été abandonnés dans le désert proche, obtiennent une sentence historique avec la reconnaissance de la culpabilité de l'État mexicain dans les cas de Ciudad Juárez. Donc, c'est assez important. L'État a violé les droits à la vie, à l'intégrité personnelle et à la liberté personnelle. Certaines autorités ont mentionné que les victimes étaient des filles volages ou qu'elles étaient parties avec leurs petits copains. Ce qui, corrélé à l'inaction de l'État au début des recherches, permet de conclure que cette indifférence, par ses conséquences sur l'impunité du cas, reproduit la violence que l'on prétend combattre. Donc la sentence est quand même importante parce qu'on reconnaît la part de responsabilité de l'État. Donc, ces militantes cherchent à diffuser cette sentence. Un deuxième exemple, avec un affichage là très direct de la responsabilité des autorités, les militantes donc communiquent ouvertement sur la culpabilité des autorités. L'objectif est de retourner l'offense subie par les victimes et de faire honte, au final, aux autorités qui devraient agir. Donc là, vous avez deux photos où on voit bien que féminicide, maintenant, c'est plus seulement un nom, c'est aussi un adjectif, c'est-à-dire que l'État est féminicide, l'université est considérée comme féminicide. Enfin, dans une dernière partie, donc je nous invite à réfléchir sur le transfert possible du concept d'impunité si on doit définir le féminicide depuis chez nous, en France, en Europe. Une première alternative, c'est de considérer que l'on ne prend pas en compte cette notion d'impunité dans notre définition du féminicide. Donc on a vu la définition du petit Robert qui passe à côté. Là, j'ai retrouvé des propos de l'Assemblée parlementaire euro-latino-américaine où on voit bien qu'on fait la différence entre certains pays et l'Europe. Hein, donc, du côté de certains pays, on a l'impunité des crimes contre les femmes, mais en Europe, on ne cite pas l'impunité. Et puis, on remarque que du côté européen, on a ce qu'on disait tout à l'heure, les statistiques se limitent aux violences conjugales. Donc, on reste sur un pan, on va dire, du féminicide. Hein. Une deuxième alternative serait de considérer que l'impunité est égale à une sorte de laxisme, de réaction inappropriée, d'une tolérance coupable de la société. Et on considérait aussi que chez nous, la presse peut avoir un discours euphémisant vis-à-vis de la violence contre les femmes. Donc on en parlait tout à l'heure, l'excuse du crime passionnel ou la culpabilisation des victimes. On considérait aussi qu'en Europe, on a aussi des mesures de prévention insuffisantes dans le cas des agressions répétées et des menaces des ex-conjoints sur leur compagne ou ex-compagne. Et on parlait tout à l'heure du cas de Jacqueline Sauvage. On en a ici une belle illustration. Et enfin, la troisième alternative, ce serait de considérer que chez nous aussi, en Europe, l'impunité peut être synonyme d'une complicité des autorités étatiques ou judiciaires. Donc on peut prendre l'exemple de la pénalisation de l'avortement dans certains États européens, comme en Pologne, en Irlande. C'est bien dans la définition, si on revient à la définition de Lagarde, pénaliser l'avortement, c'est bien ne pas garantir les conditions suffisantes à la sécurité des femmes, hein, et on peut rentrer dans la définition du féminicide. Du côté des violences institutionnelles, le Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies a interpellé récemment la France sur l'impunité des forces de l'ordre. Les parquets français ont communiqué une réponse. Donc là, je vous renvoie, je crois que c'est un article de Elsa Vigoureux dans le Nouvel Observateur qui a enquêté. Il n'y a pas de précision sur la nature des faits commis dans les réponses données et on remarque qu'il n'y a que des peines avec sursis. Et puis plus récemment, je crois que c'est avant-hier, malheureusement, le cas d'un violeur de 28 ans qui a violé une petite fille de 11 ans. Et le parquet ne poursuit pas pour viol. Le parquet poursuit pour une simple agression sexuelle. Donc là, je pense qu'on est quand même très près. Je ne pense pas qu'on puisse séparer certains pays et la France et l'Europe, puisqu'on se retrouve dans le même contexte d'impunité judiciaire au sens d'absence de danger pour des violeurs, voire des meurtriers. Donc il me semble que la question mérite d'être posée. Que fait-on de la notion d'impunité dans une définition du féminicide qui s'appliquerait en France et en Europe? Voilà, j'en ai terminé avec mon exposé. Je vous remercie.
Voilà, donc on va... Ça ne marche pas, je crois. Si ? Ah. Donc on va passer à l'intervention suivante, Myriam Hernandez Orellana, sur féminisme, fémicide ou homicide au Chili, cette fois-ci. On change de terrain.
Bonjour. Ma présentation c'est féminicide, fémicide ou homicide, quand les termes pour rendre visible l'assassinat des femmes posent problème. Et je remercie aux organisateurs et organisatrices de me permettre de présenter ici. Et je suis docteur en sciences de l'information et de la communication. Voilà, donc c'est mon ancrage. Excusez-moi, c'est. Voilà. Et donc, cette communication s'intéresse. Je suis désolée. Ah oui, voilà. Merci. Donc, cette communication s'intéresse à l'émergence et la publicisation dans l'espace public de la notion fémicide, c'est fémicide qu'on utilise au Chili, au cours des premiers gouvernements de Michel Bachelet, entre l'année 2006 et 2010, et la postérieure inclusion du terme dans le code pénal comme l'un des cas sanctionné dans le cas de parricide. Celui-ci désigne les homicides produits dans le cadre de la famille. Michel Bachelet, c'est, bon, il est maintenant dans son 12e mandat. Michel Bachelet, c'est une présidente. Voilà. Il est question de genre, toutes les thématiques de genre sont vraiment très importantes dans son gouvernement. Donc il faut signaler ça parce que c'est une différence par rapport aux autres gouvernements, il faut le dire. Donc, et notre travail s'inscrit, bon, je viens de dire, je suis docteur en sciences de l'information et de la communication, donc s'inscrit dans l'analyse du discours, et notamment, je vais chercher à établir que fémicide est devenu une formule, comme le comprend Alice Kreplank. Donc, une formule, c'est, selon la définition d'Alice Kreplank, un ensemble de formulations qui, du fait de leur emploi à un moment donné et dans un espace public donné, cristallisent des enjeux politiques et sociaux que ces mêmes expressions contribuent dans le même temps à construire. Donc, les travaux d'Alice montrent en fait que la formule a quatre propriétés qui sont constitutives de la formule. Donc, la première, c'est son caractère figé. Fémicide est une unité lexicale simple. Et cette concision le permet justement d'être reprise par différents locuteurs. Donc, elle peut véhiculer en fait dans les discours. Il existe dans les discours, c'est-à-dire qu'il a une dimension discursive. Fémicide, enfin, la formule, et dans notre cas spécifiquement fémicide, n'existe pas en elle-même. Mais en relation avec des locuteurs qui la portent et avec des événements qui permettent justement qu'ils la favorisent, qui favorisent le fait qu'elle soit portée. Okay? La formule a une valeur en tant que référence sociale, c'est-à-dire que tout le monde, quand on dit fémicide, on sait de quoi on parle. Voilà, il a une notoriété. Et la quatrième propriété, c'est la dimension polémique, c'est-à-dire que la formule. Et là, elle est porteuse des enjeux sociopolitiques. Okay? Donc, en plus de démontrer que fémicide est bien une formule, dans le sens de Kreplank, nous verrons comment la signification du terme, le concept qui était d'abord élaboré par les féministes, a été atténué par les personnes politiques pour permettre son entrée dans le code pénal. Et puis, nous verrons également comment le caractère de référence sociale de la formule a permis, justement, a été utilisé comme argument pour permettre son entrée dans le code pénal. Voilà. Donc, notre méthodologie, merci. Notre méthodologie, c'est, bon, j'ai analysé les discours des députés qui se sont exprimés à la Chambre des députés au cours des séances de discussion de la loi sur les fémicides. J'ai complété avec des entretiens semi-directifs avec deux des auteurs de l'étude fémicide au Chili, c'était en 2004, et un entretien semi-directif avec l'ancien ministre de Michel Bachelet du Service national de la femme. Donc la première partie, ça sera de voir justement pourquoi au Chili on utilise plutôt fémicide que féminicide. Puis nous passerons à la publicisation du terme, et enfin on verra le caractère polémique du terme. Donc, au Chili, non, bon, on connaît tout ce qui a été dit déjà, non, femicide, en fait, la notion travaillée pour Diana Russell, et puis non, qui a été repris en fait de l'Amérique latine. La traduction a été faite d'une part par Anna Carcedo et Monserrat Sago, qui ont juste traduit femicide comme fémicidio, enfin, fémicide, ça sert en français. Hein. Et donc, ils font juste la traduction en fait littérale du terme, femicide en anglais ou espagnol. Et puis, la traduction de Marcela Lagarde, qui a voulu justement, avec féminicide, montrer inscrire ce crime comme des crimes contre l'humanité, notamment en mettant en avant la notion d'impunité. La impunité de l'État qui permet justement la réalisation de ces crimes. Et donc, au Chili, en fait, donc, les chercheurs, en fait, qui ont commencé leur travail, ont défini, dans l'étude, fémicide comme la forme la plus extrême de violence basée sur le genre, comprise comme la violence des hommes contre les femmes en tant que forme de pouvoir, domination ou contrôle. Ça, c'est la définition qu'ils ont appris. Donc, la question de savoir donc pourquoi fémicide hein, et non pas féminicide. Les féministes qui ont réalisé l'étude, hein, c'est cette étude-là qui a vraiment commencé en fait, hein, doucement en tout cas, il faut dire, hein, a commencé en fait à faire circuler la formule dans l'espace public. Hein, elle ne voit pas vraiment de différence entre féminicide et fémicide. Donc la question est pourquoi hein, faire cette différence. Nous proposons donc deux réponses à cette question. C'est la première. C'est un rapport avec l'état de l'art qu'ils ont fait hein, avant de commencer l'étude. C'est-à-dire que cette femme, cette féministe, ont lu hein, les travaux de Diana Russell, ont lu les travaux d'Anna Carcedo, Monserrat Sagó, en Costa Rica, et El Gran Man, ils ont connu les travaux de Marcela Lagarde. Et la deuxième réponse, c'est justement hein, par... la définition que fait Marcela Lagarde, c'est-à-dire la notion d'impunité. En fait, ce qu'expliquaient les féministes, c'est que dans la recherche qu'elle faisait en fait, des cas de fémicides au Chili, elle ne voyait pas hein, forcément hein, cette tolérance de l'État délibérée. Hein. Donc, pour elle, hein, dire féminicide, ça serait justement... restreint la définition des phénomènes, donc hein, la portée du phénomène. Voilà. Donc maintenant, je vais passer à la deuxième partie, qui c'est de la publicisation de la violence contre les femmes à la publicisation de la violence au sein des couples. L'idée, en fait, qu'on ait les féministes au Chili de faire une étude sur les fémicide, c'était inscrit dans un cadre plus global de l'Amérique latine, c'est-à-dire à partir de les années 2000, les différentes associations féministes hein, ont commencé vraiment à publiciser les phénomènes de fémicide. Donc, il y a eu plusieurs études qui se sont produites dans différents pays. L'idée, c'était vraiment de publiciser les phénomènes de fémicide et plus largement hein, la violence contre les femmes. Okay? Dans le cadre chilien, hein, il y avait également un contexte sociopolitique, non? C'était en fait l'année 1994 au Chili, on a voté une loi qui c'est la loi des violences intrafamiliales. Hein? Loi des violences intrafamiliales. Dans cette loi, hein, on punit les crimes contre les femmes au sein des couples, hein, mais c'est également les crimes hein, commis contre les personnes âgées, contre les enfants, tout dans le cadre de la famille. Voyez, donc ça s'appelle violence intrafamiliale. Donc cette loi, en fait, ça a été très critiqué pour les féministes. Cette loi, en fait, ne permet pas de montrer hein, que les violences hein, contre les femmes sont des violences qui ont une spécificité. Vous voyez, le rapport de genre hein, dans cette violence est complètement absent. Donc, c'est dans ce cadre-là hein, que l'étude fémicide voulait hein, également publiciser hein, ces violences. Donc, ça c'était l'objectif, non, de publiciser à travers les concepts de fémicide, hein, vraiment les violences des femmes au sein des couples et plus largement les violences des femmes dans l'espace public et privé. Les féministes, en fait, ont défini différents types de fémicides. Ils ont repris les mêmes catégories d'Anna Carcedo et de Monserrat Sagó dans son étude en Costa Rica. Donc, fémicide intime, c'est celui où il y a un rapport intime entre l'agresseur et la victime. Hein. Soit c'est son mari, compagnon, ou ancien mari, ou ancien compagnon, petit ami, ancien petit ami, un ami ou quelqu'un de la famille. Le fémicide non intime, c'est celui où l'agresseur et la victime ne se connaissent pas. Et le fémicide collatéral, c'est où la femme se trouve au mauvais endroit, au mauvais moment, où elle était dans la ligne de tir de l'agresseur. Voilà. Donc, cette idée non, de publiciser vraiment la violence contre les femmes hein, dans l'espace public et privé a été finalement très atténuée. Hein. Et ça a commencé en fait en avril 2007 lorsque un député de la concertation c'était à l'époque l'alliance de gouvernement hein, où il y avait différents partis, démocratie chrétien, la démocratie chrétienne, le parti socialiste, bon, etc. Donc cette députée, qui d'ailleurs était une ancienne féministe, elle a proposé une proposition de loi pour inclure les concepts et inclure les cas des anciens maris ou anciens compagnons ou anciens petits amis de la victime dans, dans les cas enfin, sanctionnés avec les mêmes peines que les cas de parricide. Parce que ce qui s'est passé avec la loi de violence intrafamiliale, ces personnes-là, ces agresseurs bénéficiaient de certaines atténuantes. Donc du coup, ces peines étaient plus basses. Donc, cette réduction de la portée a eu des conséquences. Déjà, elle a produit un lissage de la formule fémicide qui a effacé moyennement la conflictualité du terme. Mais elle a empêché la reconnaissance des violences contre les femmes produites dans l'espace public. Donc, voilà la réduction. Et donc, ça réduit également l'ampleur du phénomène. Voyez, parce que si on réduit la définition, ça réduit également l'ampleur du phénomène. Et donc, ça empêche également de montrer que fémicide s'intègre dans le continuum des violences contre les femmes. Donc, ce lissage, en fait, c'est comme ça, à partir de ce moment-là, qu'on commence à parler de fémicide dans ce cadre-là, c'est-à-dire dans le cadre des assassinats des femmes commis par leurs compagnons, maris, concubins et par leurs anciens maris concubins. Voilà. Et donc, c'est comme ça, en fait, que la ministre de Surnam commence également à parler de fémicide. Mais le gouvernement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu une décision politique d'utiliser le terme. Donc, chaque fois qu'il y avait un cas de fémicide, il y avait la ministre qui faisait une conférence de presse ou un point de presse. L'idée, c'était vraiment de rendre public le phénomène, de faire que les journalistes en parlent. Si ce n'était pas la ministre, donc là, on voit des exemples, en fait, de... Bon, c'est tous en espagnol, mais on voit des exemples, en fait, des articles de presse. Donc, l'idée, il y a eu pas mal de reportages à la télévision. Vous voyez, c'était vraiment publicisé, en fait, les médias ont vraiment pris le phénomène, ont commencé à parler du phénomène. Voyez, et il l'a nommé comme fémicide. Donc, le caractère polémique de fémicide. Donc, le caractère polémique de fémicide, on l'observe tant dans le discours féministe comme dans celui des parlementaires. La polémique, il s'agit d'une polémique portée par la teneur sémantico-référentielle de la formule fémicide. Pour les féministes, si bien la loi a permis de rendre visible les phénomènes, c'est-à-dire, oui, maintenant, on sait... Enfin, tout le monde sait de quoi on parle. Il a également vidé le concept fémicide de sa substance politique, c'était de rendre visibles les violences contre les femmes, vraiment dans l'espace public, mais enfin, violences également produites dans l'espace public. Donc, comme on l'observe ici, c'est un extrait en fait, de l'un des entretiens que j'ai traduit. Okay, voilà. En ce qui concerne la discussion des projets de loi dans les commissions des familles et dans la commission de constitution, dans la Chambre des députés, il avait également un nombre important d'arguments qui ont fait référence à sa signification. Donc, pour certains députés, il s'agissait d'un terme doctrinaire. Donc, il n'avait pas sa place dans le code pénal. Le deuxième argument des opposants, c'était que c'est en fait, ils essayaient d'élever la portée liée à la violence de genre, parce que comme l'objectif c'était justement d'inscrire les fémicides dans le cadre de la violence intrafamiliale, donc dans ce cadre-là, pourquoi on parlait pas d'infanticide, voyez, enfin, l'idée c'était vraiment de supprimer le caractère politique lié à la violence de genre. Enfin, le gouvernement, au départ, le gouvernement ne voulait pas utiliser le terme fémicide, ne voulait pas l'inscrire dans le code pénal. Mais en fait, c'était parce que la ministre entendait que fémicide se référait également au meurtre des femmes commis dans l'espace public. Donc, l'inscrire dans le cadre de la violence intrafamiliale, ça serait justement de réduire la portée du terme. Donc, mais bon, face à tous ces arguments opposants, non, la députée qui était à l'origine de la proposition de loi, elle a indiqué deux choses. La première, c'était que d'ailleurs qu'elle a utilisé comme argument justement les caractères de référent social du terme féminicide pour manifester qu'on avait vraiment besoin de légiférer. Elle affirmait que féminicide est un terme qui est connu par l'opinion publique pour décrire l'assassinat des femmes commis par le mari ou les anciens concubins ou les actuels concubins. Enfin, il a signalé que ne pas inclure féminicide ne permet pas de rendre visible le phénomène ni de montrer que l'État s'en charge. Vous voyez ? Donc ça, c'est l'argumentation, en fait. Durant l'étude du projet de loi dans la salle de la Chambre des députés, le caractère polémique de la formule est observable dans la définition et la portée que les députés de la concertation et de l'opposition de droite, à l'époque où il avait été opposition de droite, que l'opposition de droite ont fait justement du phénomène. Donc là, dans ces graphiques, ça c'est les occurrences, c'est-à-dire les fois comment on a défini féminicide dans les discours. Donc, on observe en fait que pour les parlementaires de la concertation, ce sont ceux qui sont en bleu. La concertation, je répète, c'est l'alliance de gouvernement à l'époque. Donc, pour les parlementaires de la concertation, ils définissent féminicide comme l'assassinat d'une femme produit par son mari ou concubin ou ancien mari ou ancien concubin. Voilà, en fait, c'est justement le cadre de la proposition de loi. Mais c'est également, ils l'inscrivent justement dans la dimension de la violence de genre. Donc là, on observe en fait qu'il y a un député qui parle justement de la manifestation la plus extrême d'un continuum, vous voyez, des violences de genre. Voyez, c'est... Tandis que pour les députés de l'opposition, en fait, ils n'arrivent pas vraiment à bien cerner la définition de terme. Tantôt, c'est l'assassinat de la femme commis par son mari, son actuel mari, son actuel concubin. Tantôt, c'est l'ancien mari et l'ancien concubin ou les deux. Vous voyez, enfin, ils n'arrivent pas vraiment à la définir. En tout cas, en fait, ils n'arrivent pas vraiment à l'inscrire. Ça, c'est une chose. Ils n'arrivent pas vraiment à l'inscrire dans la violence de genre. Enfin, ça, c'est les députés de droite n'arrivent pas à ce moment-là, je vais dire. Enfin, peut-être que ça a changé, mais en tout cas, au cours du débat, ils n'arrivent pas à l'inscrire dans la violence de genre. Peut-être c'est justement cette réduction, en fait, de la portée de la signification a fait que pour deux députés de droite, un féminicide était égal à parricide. Vous voyez, enfin, c'était la même chose pour eux. Nous avons pu observer également que les députés, les députés de la concertation comme de l'opposition de droite ont appuyé leur vote favorable et même ceux qui, au départ, étaient opposés à l'inscription des féminicides dans le code pénal ont vraiment argumenté leur vote favorable à la loi. En argumentant que le terme permet de reconnaître et de rendre public une réalité. Mais encore, ce qui est intéressant dans le cas des féminicides au Chili est que l'un des caractères propres à la formule, le fait d'être un référent social, a été utilisé comme argument par celles et ceux qui ont promu et voir ses opposantes après. Donc là, on voit en fait, vous voyez, deux députés, en fait. La première, c'est la députée, en fait, qui avait promu la loi. Et la deuxième, c'est un député, en fait, d'un parti de droite qui, au départ, s'était opposé, j'ai dit, non? Donc, on voit dans ces deux extraits de leur discours, en fait, comment les caractères de référence sociale, ça a été tellement important qu'ils l'ont utilisé vraiment comme argument. Donc, on ne pouvait plus, à un moment donné, on parlait tellement de féminicide dans l'opinion publique qu'on ne pouvait plus s'opposer à l'inclusion de termes dans le code pénal. Donc, pour en conclure, il y a eu une atténuation. Bon, certes, féminicide, on a démontré, c'est bien en formule, comme on l'entend dans les scripts Planck. On a féminicide, certes, a été inclus dans le code pénal, mais ça a un prix. En fait, le prix, c'était justement cette atténuation du concept parce qu'on les circonscrit dans les cachillas, on les circonscrit toujours à cette sphère dans la, de la violence intrafamiliale. On est toujours dans ces cadres-là. Donc, on est toujours, en fait, dans le cadre de la violence conjugale, enfin, entre guillemets. Mais on voit bien comment le caractère de référence sociale de la formule a été utilisé pour faire que le concept soit inclus dans la loi. Mais pour cela, il a fallu vraiment une décision politique, c'est-à-dire que le gouvernement a décidé vraiment d'en parler. De vraiment, chaque fois qu'il y avait un cas, il y avait la ministre qui faisait une conférence de presse. Si ce n'était pas la ministre, c'était son délégué dans la région. Il n'y avait pas que la ministre de Sernan qui parlait. La présidente elle-même a utilisé le terme. Les autres ministres ont utilisé le terme. Vous voyez ? Donc, c'était vraiment... donc, les médias ont beaucoup, vraiment beaucoup parlé. Donc, cela a permis quoi ? Cela a permis, en fait, que les phénomènes... Enfin, on parlait des fémicides tout au long de l'année. Vous voyez ? Tout au long de l'année, on parlait des fémicides. Et donc, tout au long de l'année... Les problèmes de la violence contre les femmes étaient présents dans la sphère publique. Voyez. En France, en fait, les gouvernements n'ont pas voulu utiliser les termes pour publiciser justement les phénomènes de fémicide. Et on voit que malheureusement, en fait, on parle du cas en fait de la violence contre les femmes plutôt tout le temps autour de 25 novembre. Voilà, c'est un peu la situation. Et je vous remercie. Merci.
Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir vraiment respecté le temps plus qu'à la lettre. Donc, on a quelques minutes pour avoir un premier échange avec des questions ou des interventions pas très longues, des réponses qui ne le seront, je l'espère, pas trop non plus, pour avoir une petite pause entre les deux séances. Nous pourrons reprendre la discussion, le débat en fin de matinée. Puisqu'il y aura un temps peut-être plus long de prévu si on n'en prend pas trop maintenant.
Merci. Je vais prendre les questions, mais juste j'en profite d'avoir le micro pour vous remercier pour vos communications. Et Simone de Beauvoir a écrit « Nommer, c'est dévoiler, et dévoiler, c'est agir ». Et je pense que là, justement, dans le cadre de la neutralité des violences intrafamiliales et le fait de nommer, c'est voilà. En parlant d'action, je voulais vous signaler qu'il y a à Nantes un collectif qui s'appelle RAFU, qui est donc ces réseaux d'action féministe unis, qui a commencé une action dans les rues avec des pochoirs sur lesquels il y a marqué « Ici, une femme a été battue, tuée, violée, agressée ». Donc elles essayent de marquer comme ça l'espace public des meurtres, voilà, justement, faits aux femmes. Qui veut intervenir ? Qui a des questions ?
Merci. J'aurais une question aux intervenantes. Alors, je compare par rapport à la Tunisie, où lorsqu'on a des débats sur l'inclusion de termes, par exemple, au niveau juridique, et il y a systématiquement les interférences qui sont faites par les organisations internationales, les Ligues des droits de l'homme, les Nations unies, etc. Et en Tunisie, il y a véritablement un harcèlement de ces organisations pour essayer de changer, d'appuyer, de faire des plaidoyers en ce sens. Alors j'aimerais savoir si dans vos cas respectifs, au Mexique et au Chili, est-ce que, parce que vous n'en avez pas parlé, est-ce que ces organisations sont intervenues, est-ce qu'elles ont été efficaces, est-ce qu'elles ont appuyé les différents plaidoyers au niveau local ? Merci.
Alors, je ne sais pas si je vais répondre exactement à votre question. Moi, ça me fait penser à quelque chose que j'aurais pu préciser, c'est-à-dire qu'actuellement, le féminicide, actuellement, c'est aussi le meurtre, l'assassinat des défenseurs des droits humains. C'est une coloration que prend la définition du féminicide actuellement au Mexique. Meurtre des défenseurs de droits humains, meurtre des journalistes femmes qui se battent contre la violence. Donc oui, bien sûr que tous ces défenseurs interviennent pour essayer de faire pression. Souvent, sur le terrain, les militantes disent que le Mexique est le pays qui a signé le plus de traités internationaux pour protéger les femmes, et puis qu'au final, ce n'est qu'un paravent, rien n'est fait concrètement. Je crois que c'est Marie-Flore Aguilar qui parle de blindage médiatique, c'est-à-dire que tout est fait pour faire croire que les politiques publiques se mettent en place et en fait il n'y a rien. Je ne sais pas si tu veux répondre.
Oui. Juste pour dire qu'en fait au Chili, l'étude faite par les féministes, Femicide au Chili, a été financée par des fonds internationaux. Oui, mais ça c'était après. En fait, l'étude c'était oui. Bon après, après c'est vrai que comme son gouvernement a eu, voilà, donc il a été nommé après secrétaire général des ONU Femmes, mais ça c'était après. mais oui, en fait, c'était l'étude en fait a été financée par des organismes internationaux.
Bonjour. Alors du coup, j'aurais une petite question plutôt sur éventuellement le concept tel qu'il a été formulé par Diana Russell et Jill Radford. Elles ont dénoncé en fait cette transformation de fémicide à féminicide, notamment du coup en raison du fait que est-ce que si le crime est impuni, non, au contraire est puni, est-ce qu'il du coup il est plus un féminicide, un fémicide du coup. Bon, ma question c'est plutôt sur cette question du nid qui pose problème.
Oui, ouais. Donc c'est une grosse controverse dans les années 2000. Moi, pour l'avoir beaucoup travaillé du côté du master, j'avais commencé par ça, par étudier toutes les définitions données. Il en ressort. Personnellement, mon point de vue, c'est que c'est une controverse d'intellectuels au départ, de propriété intellectuelle de mots. Parce qu'au Mexique, par exemple, donc Russell a travaillé, a collaboré avec Marcela Lagarde. En 2006, quand Lagarde est encore dans le pouvoir, dans les structures de pouvoir, elle demande l'autorisation à Russell de traduire ses livres en espagnol. Russell accepte, est tout à fait d'accord avec la traduction féminicide, et puis quelques temps après, elle s'offusque en disant c'est pas possible, on peut pas dire que c'est féminicide, et la controverse démarre parce que, alors, si, dans certains cas, les meurtres sont punis, donc tu peux pas dire ça. Alors après, c'est oublier que pour Lagarde, comme je l'ai montré, l'impunité, ça a un sens extrêmement large, ce n'est pas que la punition par la prison, c'est la tolérance sociale, c'est plein de choses. Après, je pense que les féministes aussi se sont mises d'accord pour dire que c'était une controverse du début, de la formation des mots, que ça leur échappe maintenant, que chacun peut quand même... les mots nous échappent, chacun reformule aussi, et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui aussi, et savoir qu'est-ce qu'on pourrait mettre nous dans le concept de féminicide ici. Et je crois que maintenant c'est un peu clos au sens où la priorité c'est un combat commun, que ce soit féminicide. D'ailleurs, il me semble que maintenant, même dans les pays où c'est le mot fémicide qui est passé, l'impunité ne fait plus débat. Je veux dire, l'impunité est intégrée maintenant. Enfin, il me semble que dans les combats, l'impunité des institutions, elle est revendiquée au-delà du Mexique, dans toute l'Amérique latine. Donc, je pense que voilà, ça a été un peu monté en épingle. Enfin, c'est mon point de vue.
Oui. Je voulais juste ajouter, en fait, dans le cas de Chili, quand j'ai demandé en fait aux auteurs pourquoi fémicide et pourquoi non, fémicide. Au départ, on me regardait un peu, genre, ah ouais, tu t'intéresses sur ça. Enfin, parce que pour elles, ce n'est pas un débat. Voilà, simplement pour les féministes, enfin, en tout cas au Chili, je veux dire, enfin, ce n'est pas un débat. Voilà. Oui, enfin, mais c'était vraiment très, très court, en fait, ça coupait court. Voilà, l'importance pour elles, c'était vraiment de rendre visibles les phénomènes. Voilà. Donc, après, certes, il y a cette idée-là de la tolérance qu'il peut avoir la société sur la chose, mais en fait, les féministes chiliens, c'est que faisaient vraiment la différence avec le Mexique, en fait. Vous voyez, enfin, la situation du Mexique, en fait, elle ne le voyait pas du tout dans le cas chilien. Hein. Cette impunité vraiment délibérée de l'État, de ne pas inquiéter, elle ne le voyait pas, en fait, dans le cas chilien. Donc, vous voyez, c'était... Je crois que l'impunité, en fait, c'est vraiment dans ce cadre-là, vraiment que l'État n'inquiète pas ou que nie l'existence des victimes, parce que parfois c'était ça au Mexique. Hein. C'est là, c'est, voilà, enfin, gros.
C'était juste rajouter que Lagarde aussi, il ne faut pas oublier, donc, elle était dans son rôle de parlementaire et qu'elle a une vision, son but c'est de le faire passer dans la loi, donc c'est une vision de politique publique, c'est pour ça qu'elle tourne aussi cette impunité-là, comme je l'ai montré tout à l'heure, comme pression sur l'État. Il ne faut pas oublier ça, elle a une vision légaliste du concept.
Merci. Donc on fait une petite pause d'une dizaine de minutes et puis on reprend pour la deuxième séance tout à l'heure vers 11h. Vers 11h.
Tout à l'heure, interroger le traitement politico-juridique du féminicide dans les débats français avec deux intervenantes que je vais vous présenter. Et également aux États-Unis, alors l'intervenante Aurore Schwab, qui appartient à l'Université de Genève, n'ayant pu se déplacer, elle a eu l'amabilité de nous envoyer un PowerPoint qui devrait avoir du son. Je cherchais Louise, mais elle est là. Oui. Voilà. Qui devrait avoir du son. Et donc nous pourrons quand même bénéficier de son exposé. Et moi, je m'en réjouis. Alors. Pour commencer, nous allons parler des dissonances juridico-politiques dans le débat français sur le féminicide, avec d'une part Amélie Bescon, qui est de l'Université Paris-Diderot, qui travaille à Sciences Po, mais qui est aussi un pied en sciences humaines, notamment du côté de la psychanalyse, et Tayana Marcon, qui est juriste et qui vient de Paris-Ouest Nanterre, La Défense. À vous.
Alors merci beaucoup, bonjour à tous, merci pour l'organisation et pour l'invitation bien sûr. Donc avec nos propres domaines, on a décidé dans ce papier de s'interroger justement, de les mettre en perspective pour comprendre les différents débats qui ont eu lieu et les différents acteurs qui se sont exprimés en France sur l'introduction du féminicide. Donc il faut savoir qu'en France, la lutte contre les violences faites aux femmes a été déclarée grande cause nationale en 2011. Et a fait l'objet donc de plusieurs plans interministériels et d'une très grande attention de la part des pouvoirs publics. Lorsque cette violence atteint son paroxysme, cependant, seules certaines situations faisaient l'objet de dispositions particulières en droit français, et je pense notamment à la plus fréquemment utilisée, celle qui était relative au meurtre commis sur conjoint. On a eu un grand changement avec la loi Égalité et Citoyenneté du 27 janvier dernier, qui a introduit le caractère sexisme comme une circonstance aggravante du meurtre. Donc désormais, on a une reconnaissance plus spécifique du caractère justement particulier de ces crimes dont sont victimes les femmes en fonction de leur sexe. Cette nouvelle disposition, cependant, quand on s'intéresse un peu aux débats qui ont entouré cette adoption, a montré qu'on a eu une certaine réticence de la part de beaucoup d'acteurs. Pour quelles raisons ? D'abord, pour certains, c'était la neutralité, caractère sexiste, qui contribuait à invisibiliser justement les rapports de sexe et cette construction sociale qui est largement défavorable aux femmes, d'un côté, et pour les autres, c'était plus que la notion était trop floue, donc on avait une insécurité juridique. Ce qui est intéressant, notamment pour revenir au féminicide, c'est que ce terme a aussi été discuté et son introduction a été discutée pendant... justement cette préparation et les différents rapports qui ont été effectués en vue de l'introduction de ce caractère sexisme en termes de meurtre.
Ce que nous nous proposons de faire ici, c'est comme le fit par exemple Marcella Yacoub dans Le crime était presque sexuel, de retracer ce qu'on pourrait appeler l'histoire du présent en nous intéressant au régime de pénalisation des homicides sexistes qui se sont succédés à l'occasion du récent changement législatif. Et pour cela, nous allons revenir en particulier sur la littérature parlementaire, donc sur le rapport d'information sur les violences faites aux femmes porté par Madame Pascale Crozon en février 2016, sur l'avis sur les violences contre les femmes et les féminicides rendus par la Commission nationale consultative des droits de l'homme de mai 2016, et donc sur les débats relatifs à la loi Égalité et Citoyenneté. Nous allons interroger en particulier les réticences du législateur et les a priori subsistants autour du phénomène même de féminicide qui transparaissent dans ces différents débats, de manière à poser les questions suivantes. comment expliquer les réticences du législateur français vis-à-vis du débat sur l'introduction du féminicide en droit pénal, mais surtout quel régime de pénalisation conviendrait finalement en termes politiques et juridiques à la lutte française contre le féminicide. Donc nous allons interroger ce qu'on appelle régime de pénalisation. Le premier, qui était l'ancien régime de pénalisation qui se focalisait sur les dispositions existantes concernant les violences conjugales. Le deuxième étant celui qui a été introduit par la loi Égalité et Citoyenneté et qui s'appuie donc sur la circonstance aggravante en raison du sexe. Et le troisième étant, la troisième partie posera la question de la possibilité ou l'impossibilité d'introduction d'un crime autonome, d'un crime spécifique, féminicide, dans le droit pénal français.
Donc, en premier lieu, il nous a paru très intéressant, et pour la compréhension du débat français, de revenir sur l'ancien régime, qui était celui qui se focalisait sur les violences conjugales, puisque dans l'opinion générale, les meurtres sexistes perpétrés en France se résumait à des féminicides intimes, c'est-à-dire ça renvoyait à la figure du meurtre conjugal. Les seuls chiffres qu'on a sont ceux qui établissent le 209 femmes qui ont été tuées par leur conjoint officiel. Ce sont les seules statistiques que nous avons par rapport à ça. Donc on va plutôt ici se poser la question des dispositifs juridiques et judiciaires qu'il y avait en place et justement de leurs limites pour pouvoir ensuite comprendre l'enjeu qui a été de la reconnaissance du caractère sexiste. Alors, il faut voir, dans un premier temps, le droit français avait pour tradition de vouloir apaiser les tensions familiales plus que de vouloir les réprimer pénalement. On le voit déjà, d'une part, il n'y a que 14% de femmes violentées qui portent plainte quand il s'agit de leur conjoint comme agresseur. Et deuxièmement, on a vraiment, donc même quand ces dispositions s'appliquent, et là, je vais vous prendre l'exemple, le deuxième article que vous voyez là, qui est l'article 515-8 du Code civil, qui parle du concubinage. Alors, le concubinage est une circonstance aggravante en cas d'agression, en cas de meurtre. C'était déjà le cas avant la loi 2017. Cependant, comme on voit ici, ce qui est intéressant, c'est que le concubinage est une union de fait. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun enregistrement administratif pour pouvoir prouver un concubinage, à la différence d'un mariage ou d'un pacs. Donc, on a un arrêt très intéressant du 21 septembre 1999 de la Cour d'appel de Paris qui établissait que quand l'agresseur réfute le concubinage, la circonstance aggravante ne peut être établie puisque le concubinage n'a pas été reconnu, l'union de fait n'est pas reconnue, le concubinage n'existe pas. Donc ça, on voit bien un problème dans cette première législation. C'est pour ça que quand on regarde les statistiques de violence sur de meurtre de conjoint, on parle de conjoint officiel, mais on parle aussi de violence globale. C'est-à-dire, là, je vous ai donné le chiffre de 109 femmes françaises tuées par leur conjoint officiel. Ça ne prend pas en compte, puisque le total était de 138. Donc, on a une part qui est des conjoints non officiels qui ne rentrent pas dans ces catégories juridiques qui permettraient justement de pouvoir jouer sur la circonstance aggravante. Donc ça, c'est les cas où ça ne marche pas, et donc on a bien vu ce problème. Il faut être objectif et bien sûr rappeler qu'il y a eu beaucoup d'avancées qui ont été faites depuis les années 90, notamment je citerai ici pour les cas de meurtre sur conjoint, le premier article que vous voyez là, qui a été ajouté à l'alinéa 2 de l'article 132-80, qui étend la circonstance aggravante aux ex. Ça a été une énorme avancée, puisqu'avant la réforme de 2006, ce n'était pas possible. Seuls les conjoints officiels étaient poursuivis et pouvaient voir leur perte aggravée justement à cause de cela.
De manière plus générale, cette réduction du féminicide à ce qu'on appelle ici les meurtres conjugaux a été constante durant les débats parlementaires. Ce qui s'avère problématique au regard des réalités criminologiques du féminicide. Dire que les meurtres sexistes en France n'adviennent que dans le cadre conjugal est faux et occulte par la même occasion la diversité des modalités que prennent les violences de genre, les violences faites aux femmes sur notre territoire. En effet, si on observe la typologie présentée par Diane Russell et Jill Radford, on peut remarquer que seul le féminicide de masse semble réellement absent du contexte français, au contraire de ce qu'elle appelle les crimes lesbicides, les féminicides racistes ou encore des assassinats des criminels en série qui ne s'en prennent qu'aux femmes, qui portent tous de manière décisive un caractère sexiste. La focalisation de ce régime de pénalisation sur le prisme des violences conjugales finit donc par taire la diversité des formes que prennent ces violences, je l'ai dit, et par renvoyer le féminicide à la sphère privée et à l'intimité conjugale. Or, ceci est problématique puisque ceci écarte également le phénomène des débats publics et contrevient plus généralement au projet de repolitisation des violences de genre et en particulier du féminicide.
Alors, maintenant, on va s'intéresser à l'introduction et à cette nouvelle reconnaissance d'une aggravation en raison du caractère sexiste d'un crime, qui a été promulguée le 27 janvier dernier. C'est l'amendement 744 qui vient modifier cette proposition de loi. Et il est très intéressant à lire, puisqu'il se base sur les deux premières recommandations que vous voyez là. Donc une qui est de la Commission nationale consultative des droits de l'homme et une autre qui est du Comité des Nations Unies pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'encontre des femmes, qui clairement tous les deux rappellent le caractère particulier des violences faites aux femmes dans les cas où il y a un caractère discriminatoire et qui justement invitent les États à prendre des dispositions particulière pour endiguer ces formes de discrimination et pouvoir répondre aux réalités sociales qui sont observables autour du monde. Donc là où c'est où on peut s'arrêter un peu, c'est la question des débats parce que au final ces crimes sexistes, enfin cette nouvelle introduction a beaucoup été débattue. Pour plusieurs raisons, mais la plus grande, on va dire que je la réunirais derrière le principe fondamental qui est la sécurité juridique. Donc c'est un principe de droit qui prévoit notamment que la loi doit être prévisible et doit être lisible. Donc les citoyens doivent savoir ce qu'il en est et pouvoir le prévoir si jamais ils commettent quelque chose. C'est un principe fondamental. Donc le premier aspect a été de dire que cette nouvelle circonstance aggravante avait un caractère superflu, puisque... Et là, je cite Madame Béatrice Brossard, qui était la sous-directrice de la justice pénale générale, qui a été auditionnée par le rapport Crozon, qui disait qu'il existait déjà un certain nombre de circonstances aggravantes qui sont de nature à répondre à des situations factuelles, notamment celles constituées par le meurtre commis par le conjoint ou l'ex-conjoint. Donc encore ici, on voit bien qu'on a un renvoi vers les violences conjugales qui montre peut-être une incapacité à voir les violences contre les femmes sur un aspect plus global. L'amendement 744, encore une fois, est très intéressant puisqu'il y fait explicitement référence en soulignant que la violence à l'encontre des femmes, c'est un enjeu qui est sociétal et ne peut être attribué à des comportements individuels ou à des histoires personnelles. Le deuxième problème qui a été soulevé par les détracteurs était le fait que cette nouvelle circonstance aggravante contribuait à ajouter une certaine illisibilité dans le droit parce qu'on a une profusion. Si vous regardez les différents articles, notamment l'article 221-4 sur le meurtre, on a une liste de 12 circonstances aggravantes. Donc ça peut être un peu compliqué. Cependant, c'est intéressant de voir que en France, on n'exclut pas le cumul de circonstances aggravantes. Donc vous pouvez avoir plusieurs circonstances aggravantes, mais on aura un plafond au niveau des peines. C'est juste là que c'est différencié. Donc le législateur a quand même essayé d'être clair dans le sens où il y a certaines circonstances aggravantes qui ne vont pas être applicables. Par exemple, si on a déjà une aggravation à cause du caractère justement de... quand c'est commis sur un ex-conjoint ou sur un conjoint, on ne pourra pas faire jouer cette circonstance aggravante en raison du sexe. On gardera la première. Donc ça a permis de répondre à des petits commentaires qui avaient été faits par notamment le conseiller à la Cour d'appel d'Orléans, M. Edouard Durand, qui, pendant le rapport Crozon, avait notamment exprimé une certaine méfiance, puisque cette nouvelle circonstance aggravante allait entraîner une ambiguïté pour les magistrats et peut-être les faire passer à côté du caractère de la dimension conjugale des violences. Pour passer rapidement, parce que c'est quelque chose qui a été beaucoup mentionné aussi, mais qui est finalement balayé très facilement, qui était qu'il n'y avait pas de définition juridique du terme de sexisme. Effectivement, il n'y a pas de définition juridique, ce n'est pas comme un contrat. Mais on peut voir que ce terme de sexisme existe déjà, notamment avec la modification de l'article 32 et 33 de la loi du 29 janvier 1981 sur la liberté d'expression, qui fait déjà de l'injure et la diffamation à caractère sexiste une infraction aggravée. Donc, comme toute infraction qui fait appel à ce genre de circonstances aggravantes, c'est le jury, par son intime conviction, par les éléments qui lui sont apportés, qui va décider si la circonstance aggravante est applicable ou pas. Je vais être un peu technique juste un instant, parce que je trouve que c'est très intéressant. C'est qu'en droit pénal français, la preuve est apportée par tout moyen, certes, mais elle est très peu souvent parfaite, c'est-à-dire qu'on va avoir plutôt plusieurs éléments pour le jury à apprécier pour pouvoir, oui ou non, savoir si il y a effectivement un caractère sexiste. Donc pour certaines associations qui se sont exprimées sur l'introduction justement de ce caractère sexiste, on a eu, pour eux c'était vraiment, on aurait une exigence probatoire supplémentaire qui allait peser sur la victime, et donc ce serait plus alourdir le fardeau de la victime pour pouvoir prouver justement qu'il y a eu un caractère sexiste, qui serait peut-être pas le plus à même de répondre à cette problématique. Et deuxièmement, donc pour nous, la difficulté, elle résidait ailleurs, et je vais finir là-dessus, c'est plutôt sur le contexte général. Si je cite Madame Brigitte Grédy, qui était secrétaire générale du Conseil supérieur à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, elle s'exprimait lors du lancement de la campagne contre le sexisme ordinaire au travail, et elle affirmait que la tolérance au sexisme était sans commune mesure avec d'autres discriminations. Donc dans un tel contexte, la question qui se pose, c'est plutôt sur la capacité d'un jury, notamment populaire, puisqu'on a 6 jurys populaires en cour d'assises, à appréhender ce sexisme et les motivations sexisme de l'acte pour pouvoir retenir cette circonstance aggravante. Donc c'est pour ça que je vous mets ici la définition de Widmar, qui parle de préjugés généraux, et donc l'existence de ces préjugés généraux, c'est-à-dire d'un transfert de préjugés concernant les attitudes, croyances ou stéréotypes sur certaines catégories de personnes, groupes ou situations pendant un procès, influerait sur leur appréciation, notamment de ce caractère sexiste, et en l'occurrence, le contexte patriarcal dans lequel nous vivons, et dans lequel certaines formes de sexisme envers les femmes sont si répandues et quotidiennes qu'on ne les perçoit plus comme du sexisme, occulterait ce caractère sexisme aux yeux des jurés.
Pour passer à notre troisième partie, j'aimerais revenir sur une question d'ordre général concernant ces débats. On pourrait se demander pourquoi avoir choisi de pénaliser le féminicide par l'ajout de circonstances aggravantes et non par un crime particulier. Au regard du rapport Crozon, la France aurait en effet pu s'engager politiquement dans cette voie, puisque ce dernier fut introduit en ces termes, faut-il reconnaître en droit le féminicide ? Et donc, dès l'exposé du problème, certains bénéfices furent concédés à cette mention. Par exemple, qualifier spécifiquement le féminicide en droit mettrait en lumière les constructions sociales fondées sur le genre qui sous-tendent les homicides sexistes, les féminicides, et la reconnaissance pénale d'un tel crime pallierait d'autre part aux insuffisances du droit relatif aux violences conjugales qui ont été mentionnées précédemment. La présidente de session, introduisit la table ronde des représentants des associations féministes en précisant, par contre, nous interrogeons sur le féminicide qui ne figure pas dans le code pénal. En la matière, nous n'envisageons pas de déposer une proposition de loi, mais plutôt d'amender un projet de loi en discussion, qui était le projet de loi égalité. Et donc, durant l'audition des associations féministes, on voit bien que n'est abordée à aucun moment la possibilité de pénaliser c'est abordé, mais très vite balayé, la possibilité de pénaliser par voie d'un crime particulier. Plusieurs questions s'ouvrent alors. Comment expliquer le rendez-vous manqué du rapport Crozon et le repli du débat français sur le féminicide vers un régime de pénalisation par circonstances aggravantes ? Et surtout, comment expliquer le consensus qui s'est organisé très rapidement entre les juristes et les associations féministes autour de ce projet ? Cela est d'autant plus étonnant lorsque nous pensons qu'une association comme Oser le féminisme, qui avait lancé la campagne Reconnaissons le féminicide dès 2009, abandonna directement cette idée en se positionnant pour l'ajout des circonstances aggravantes, ou alors que la Fédération nationale Solidarité Femmes, qui était autrefois engagée pour la création d'un délit spécifique de violence conjugale, puisqu'elle avait pointé par le passé l'insuffisance des procédés de pénalisation des violences conjugales par voie de circonstances aggravantes, cette fédération a fini également par se positionner pour les circonstances aggravantes concernant la question du féminicide. Plusieurs réponses ont été apportées par les acteurs, la première étant que l'introduction d'un crime spécifique mènerait finalement aux mêmes écueils que sa circonstance aggravante. Mais ce sur quoi je vais m'arrêter plus longuement ici, c'est la raison suivante. Le projet serait, d'après tout le monde, en fait, incompatible avec la doctrine universaliste de notre droit. Les acteurs ont en effet concouru à la plus républicaine des solutions proposées, c'est-à-dire celle qui revenait à passer par la voie du droit antidiscriminatoire, en mobilisant notamment une formulation plus neutre et à première vue plus respectueuse du principe d'égalité devant la loi. Et c'est là que réside la barrière qui semble infranchissable, ou du moins qui complique la reconnaissance pénale d'un crime féminicide en France. Ce terme est sexo-spécifique et se heurte, se heurterait en tout cas, à l'article 1er de la Constitution. Et c'est ce qui permet à certains acteurs du rapport Crozon de dire, par exemple, dans un certain élan antiféministe, c'est une erreur philosophique ou morale de faire des femmes un objet particulier. Si l'on dit qu'il est plus grave de tirer sur une femme que sur un homme, cela veut dire que tuer un homme, c'est moins grave. Bon, non pas que le droit ne véhicule pas par ailleurs des biais sexo-spécifiques par son application, comme en témoigne l'esprit des circonstances aggravantes qui ont été mentionnées précédemment, mais également l'esprit des circonstances aggravantes en raison de l'état de grossesse d'une victime. Mais sa lettre, en tout cas, ne saurait intégrer de telles terminologies par définition discriminatoire au regard du droit. Pour conclure, nous pouvons nous interroger sur le sens que cette critique juridique de la sexo-spécificité du terme féminicide peut avoir en termes juridico-politiques à partir de deux aspects, de problèmes. Le premier est relatif aux distinctions sexuées qui résident déjà en droit civil, puisque si on suit Marcela Yacoub, lorsque le droit différencie les individus en catégories, c'est pour leur attribuer des obligations et des droits spécifiques. Mais alors, dans ce cas, on peut se poser la question suivante. Si les femmes se trouvent discriminées dans leur droit à la vie au regard des réalités sexuées du féminicide, comment expliquer que ces principes de distinction du droit civil ne permettent pas de justifier l'introduction de tels modes de pénalisation spécifiques ? Inversement, nous devons également de questionner les retombées de ces modes de pénalisation et de poser la question suivante. L'engagement du droit en faveur de l'égalité et de la lutte contre le féminicide est-il réellement mieux servi par des qualifications neutres ou par la reconnaissance d'un crime féminicide spécifique, en droit en tout cas ? Car comme le rappelle le projet Régine, le genre produit comme en retour le droit produit du genre. Or, si nous accordons à première vue des bénéfices symboliques à l'inscription dans le droit d'une terminologie qui revient sur les rapports sexués de pouvoir qui mènent au féminicide, nous entrevoyons parallèlement le risque de la sexo-spécification, à savoir le renforcement des traits genrés qui mènent à ces violences, puisque, de manière plus générale, à la lutte contre la violence faite aux femmes répond à un contexte pénal qui ne cesse d'euphémiser les éclats de violence des femmes. Et donc, dans un tel univers dichotomique, les sujets de droit pourraient bien se trouver définitivement enfermés par les catégories, catégories d'éternelles victimes pour les femmes, d'éternels agresseurs pour les hommes. Spécifier donc juridiquement le crime féminicide sans repenser plus généralement le différentialisme sexuel qui est relayé par la pratique du droit pénal en tout cas, pourrait alors s'avérer vain sur le long terme. Et si on revient à nos débats, au final, la difficulté à laquelle les pouvoirs publics se sont soustraits par le choix de la neutralité réside dans ce paradoxe. C'est qu'à l'urgence que représente la reconnaissance de ce phénomène meurtrier, jusque-là dissimulé sous le prisme de la conjugalité, répond d'autre part la nécessité d'envisager un après qui pourrait être un après détaché des déterminismes genrés qui mènent à ces violences. Et à cela, le droit seul, en tout cas en actuellement ne peut pas agir, enfin ne peut pas répondre seul. Merci pour votre attention.
Merci beaucoup pour cet exposé très, très détaillé. Donc nous allons maintenant prendre connaissance de ce PowerPoint s'il veut bien marcher. Mais le temps qu'on installe, il peut peut-être y avoir quelques questions à nos deux intervenantes, ce qui permettrait de couper un peu le débat. Alors, des questions, puisque nos collègues juristes sont encore là.
Oui, bonjour. En fait, je voulais savoir ce que ça changerait d'un point de vue du droit, du coup, l'introduction du terme féminicide, s'il y a déjà depuis janvier ce caractère sexiste comme circonstance aggravante. En fait, quelle différence, en fait, finalement, entre les deux qu'est-ce que ça apporterait de plus, en fait?
L'apport serait surtout politique, en vérité. Peut-être que tu veux apporter quelque chose. Donc, oui, effectivement, comme disait Amélie, c'est vraiment plus politique. Après, je reviendrai vite sur ce que je disais par rapport à la compréhension du sexisme, notamment en France. Et effectivement, on peut penser... Donc là, ce n'est pas vraiment du droit, mais on ne peut pas penser le droit de manière autonome. Donc, notamment en cour d'assises, où on a des jurés qui sont populaires. Donc, c'est pas vraiment du droit. Mais ce serait vraiment, du coup, on recouperait avec la portée politique qui est vraiment de souligner et peut-être d'appuyer sur le caractère sexisme et de la spécificité du sexisme dont sont victimes les femmes. Donc ce serait juste ça, mais la question ne se posait pas puisque je doute fortement que le féminicide soit un jour tel quel dans le droit français.
J'apporterais bien un complément d'éléments de réponse à cette question-là, parce que je suis moi-même juriste. Je pense que la connotation politique, vous voulez dire la connotation symbolique, certainement, du terme, l'importance qu'on peut attacher à voir le mot féminicide dans le code pénal, comme on avait le parricide, comme on avait l'infanticide, sauf que ces termes-là ont disparu, et qu'introduire un nouveau mot dans un code pénal, c'est introduire un mot dans un ensemble avec un souci de cohérence. Et que personnellement, je ne suis pas sûre qu'il soit très cohérent d'introduire le féminicide si on ne réintroduit pas les formes spécifiques de meurtre en considération, là toujours, des caractéristiques de la victime. On tue un enfant, on n'appelle plus ça un parricide, on n'a plus une qualification particulière. Tout passe par le biais maintenant, et c'était la volonté du législateur en 1992. Alors, on peut y revenir, mais à ce moment-là, on y revient plus généralement et pas seulement pour le féminicide. La volonté, donc, en 92, de passer par le biais de circonstances aggravantes. D'une certaine façon, on peut peut-être retourner les choses et se dire que le choix en 2017 de faire aussi par le biais de cette circonstance aggravante, c'est-à-dire d'introduire le sexe, mais aussi le genre. Il n'y a pas que la circonstance aggravante de sexe, il y a aussi la circonstance aggravante de genre dans le même article, peut permettre finalement d'appréhender plus largement les violences qui sont commises à l'encontre d'une femme parce qu'elle est femme. Si on introduit le féminicide, là, c'est le fait de tuer une femme parce qu'elle est femme. Okay ? Et on se limite à l'acte de meurtre. Par le biais de la circonstance aggravante, cette circonstance aggravante, elle s'applique à tous les comportements qui sont commis contre les femmes parce qu'elles sont femmes. Donc le meurtre, mais aussi toutes les autres formes de violence, quelle que soit leur gravité. Et d'une certaine façon, finalement, c'est un choix, mais la protection des femmes n'en est pas moindre par le biais de la circonstance aggravante qu'elle ne le serait si on n'avait que l'infraction de féminicide.
Madame Coutel. Non, moi je ne veux pas. Oui. Non. Alors. Excusez-moi, oui, je suis... assez d'accord avec ce que vous voulez, mais je pense qu'on peut reprendre l'article 132-77 tel qu'il a été voté, parce que quand on parle à l'Assemblée, je veux dire, il vaut mieux être précis et reprendre les termes exacts. Lorsqu'un crime ou un délit, c'est ce que vous venez de dire, hein, lorsqu'un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets, actes de toute nature qui portent atteinte à l'honneur, à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son sexe. C'est ça qu'on a rajouté. Donc c'est beaucoup plus large, comme vous le dites, que le féminicide, puisque ça n'est pas seulement, entre guillemets, l'assassinat d'une femme parce qu'elle est femme. Donc cet article, je ne le sais pas, puisque ça a été adopté donc, tout récemment, après qu'on vous ait lancé sur ce travail de féminicide. Je ne sais pas si cet amendement épuise le sujet, je ne le pense pas, hein, étant donné les débats qu'on a ce matin, mais il faut le revoir à cette aune-là.
Non, juste une question, enfin, et puis un petit commentaire. C'est vrai que par rapport au terme féminicide, il y a aussi une charge symbolique qui est très très forte. C'est-à-dire que quand on dit ça pour l'opinion publique, bon, forcément, chacun se sent interpellé et obligé un petit peu de se positionner ou de réagir. Alors, je comprends très bien donc l'argumentation circonstances aggravantes, ça me semble aussi tout à fait pertinent, mais du coup, je crois que là, on est un petit peu dans une difficulté, parce que comment on peut arriver donc à concilier les deux? Alors, sans compter, mais là c'est un petit peu autre chose, à l'échelle européenne, quand on regarde comme ça donc, les perceptions des législations donc, européennes, on a le sentiment qu'il y a deux pays, même s'ils ne l'ont pas vraiment inscrit donc, dans le code, mais on a coutume de dire que l'Espagne et l'Italie se sont mobilisés et donc ont inscrit donc, le féminicide dans leur loi ou dans leur législation. Alors quand on regarde dans le détail, ce n'est pas tout à fait vrai, mais au niveau de la perception, on a ce sentiment-là et donc le mot infanticide est brandi comme une sorte d'étendard et pour le réveil des consciences, ça présente quand même un intérêt. Donc du coup, la difficulté, c'est comment concilier les deux.
D'où l'intérêt d'autre part du travail politique effectué par certaines associations, hein, comme justement l'association mentionnée tout à l'heure, ou le collectif Insomnia qui avait fait des affichages justement dans Paris et qui avait écrit en gros féminicide sur toutes ces affiches dans les abribus. Donc c'est aussi intéressant de ce côté-là de poser.
Je voulais juste tout petit, en fait, au Chili, pendant les débats, en fait, justement, de l'inclusion du terme ou pas, dans les commissions, il y avait également, en fait, certains parlementaires qui sont des avocats, hein, donc juristes, ils disaient, en fait, que dans les pays développés, en fait, on est en train, justement, de retirer toutes les différentes catégories, hein. Donc, pourquoi pas, nous prenons aussi cette idée-là, en fait, c'est-à-dire de retirer toutes les différentes catégories, élever, parricide, vous voyez, enfin, tous les... Hein, pour aller dans cette évolution de droit. Mais finalement, ce qui était retenu hein, au Chili, c'était le besoin justement de montrer hein, la symbologie, l'acte symbolique en fait, que signifie justement l'inscription du terme, hein, justement pour montrer que c'était pas un crime comme les autres. Hein, voilà. Donc ça, c'est une chose. Et puis, une autre chose, enfin, par rapport justement à cette idée non, de l'égalité dans les droits, enfin, de l'égalité des hommes et des femmes dans les droits. L'une des avocates en fait, que j'avais interviewée, en fait, voilà, elle disait que justement tout ce qui se pose, hein, enfin, en général, elle observait, parce qu'elle est avocate d'une ONG féministe, etc. Donc elle observait que tout ce qui se pose à faire des avancées pour les droits de femmes hein, au niveau juridique sortait l'argument hein, de la légalité hein, entre les sexes dans les droits. Donc, enfin, elle disait ça, en fait, c'était ce qu'elle observait, en fait, à chaque combat hein, qu'on essayait d'avancer dans les droits, il y avait cet argument qui sortait, mais non, on ne peut pas le faire parce qu'il faut que les droits soient égalitaires hein, pour les deux sexes. Et donc, elle disait que ces personnes-là oublient, en fait, que certes, il y a l'égalité des droits, mais il faut également que l'égalité soit vraiment faite, hein. Donc, ce côté-là de la réalisation de la droit, de la réalisation de l'égalité dans la vie des gens, en fait, ces personnes-là l'oublient. Bon, c'est juste ça. Non.
Justement, je profite de votre présence. Donc, par rapport à cette question de faire entrer le féminicide et que ce soit considéré juste comme l'assassinat, est-ce que l'une des solutions, c'est pas comme au Mexique, avec le concept de violence féminicide qui intégrerait ce continuum? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça résoudrait cette histoire de ne pas le restreindre à l'assassinat?
En fait, toute la difficulté depuis ce matin, on questionne la définition. Et alors, c'est le travers du juriste et peut-être encore plus du pénaliste. Ça a été très bien dit tout à l'heure. Il faut que la loi soit claire, soit précise, parce que le juge a à l'interpréter. Et alors, si on introduit la notion de violence féminicide, on se retrouve sur la question, évidemment, de comment on comprend ce que signifie la violence féminicide. Et ça ne me paraît pas du tout plus clair que de passer par la circonstance aggravante telle qu'elle existe aujourd'hui. Hein. Je pense que il y a... J'entends bien la distinction entre l'égalité de droit et puis l'égalité de fait qui vient d'être dite là. Je voudrais juste mettre deux mises en garde. Je ne suis pas sûre qu'il faille passer par le droit pénal pour afficher des symboles. On l'a fait pour l'inceste, c'est une catastrophe, enfin, ça a été une catastrophe. Le Conseil constitutionnel est revenu sur la loi, alors on a essayé de redéfinir l'inceste, et c'est à nouveau, alors c'est toujours dans les textes pour l'instant du Code pénal, mais c'est très critiqué et franchement très critiquable. Donc il y a des notions comme ça qui sont vraiment dangereuses au sens très difficile à définir. Et est-ce qu'il faut passer par le droit pénal qui est quand même avant tout un droit sanctionnateur, quoi, hein, voilà. Oui. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas sanctionner ceux qui tuent des femmes parce que ce sont des femmes, je ne dis pas ça.
Oui.
Mais bon, moi je suis quand même très attachée au principe d'égalité du droit parce que la loi c'est l'affirmation de la loi. Et après ce qu'en font les juges, la manière dont les médias les traitent, la manière dont... voilà, c'est reçu et les représentations sociales, ça, c'est pas la loi. Et je pense qu'il faut vraiment faire le distinguo entre les deux. C'est essentiel, sinon on instrumentalise la loi et elle a franchement pas besoin de faire, je crois.
Tout à fait. Et j'avais envie de répondre, en fait, d'aller dans ce sens-là, Laurence. Parce que vous soulignez de façon tout à fait intéressante le fait que le problème, ça va être comment les jurys populaires vont pouvoir entendre ce que c'est qu'un acte, finalement, sexiste. Et donc, c'est bien pour que la loi puisse fonctionner, puisque pour le moment, c'est celle-là qu'on a. Et sans doute qu'elle est mesurée, que de ce point de vue, elle respecte à la fois l'universel et le particulier. C'est quel est le travail de en amont, hein, donc culturel, qu'on a à faire pour que la dimension sexiste puisse s'intégrer profondément dans notre culture. Et c'est là que bon, nous travaillons pour ça. Je crois, d'une certaine façon, on est dans un espace public aujourd'hui, mais qu'on a encore énormément de travail, hein, de ce point de vue, et toutes les interventions de ce matin, finalement, le démontrent, chacune à sa façon. Bien. Encore une question, peut-être, oui.
Alors moi, ce serait peut-être plus sur un plan un peu plus intersectionnel. J'aurais aimé savoir, par exemple, si on reconnaissait le féminicide à part entière, est-ce qu'il faudrait rajouter à ce féminicide des circonstances aggravantes de type, par exemple, raciste ? Est-ce qu'on pourrait cumuler les deux ? Ou alors, est-ce qu'il faudrait revenir systématiquement, avoir une catégorie féminicide et revenir aux circonstances aggravantes définies par, dans le meurtre ?
Oui, c'est un problème supplémentaire, justement, au terme féminicide même. C'est que en effet, on ne peut pas faire primer non plus une circonstance aggravante sur une autre, puisque la circonstance aggravante en raison de la race, l'orientation sexuelle, le genre existe en France. Mais pour le moment, par ailleurs, le droit antidiscriminatoire français ne permet pas ce cumul, en tout cas, ne permet pas de prendre en compte les dimensions plurielles que peuvent avoir ces meurtres en termes de discrimination et d'expression, justement.
Je nuancerai juste un petit peu ce qu'a dit Amélie. Mais oui, effectivement, c'est ça. Bon, après, encore une fois, comme on en a déjà discuté sur la question du féminicide en tant que tel et son introduction dans le droit pénal, vraiment, je me contenterai plutôt de parler du droit positif tel qu'il est, pour les raisons qu'on a évoquées précédemment. Mais comme je l'ai dit, on peut avoir un cumul de circonstances aggravantes, c'est possible en droit français, mais ça ne se sentira pas dans la peine, puisqu'on a un plafond au niveau des peines. On n'a pas comme aux États-Unis 150 ans de prison, ça n'existe pas en France. Mais je dirais que notre droit ne permet pas de souligner l'intersectionnalité des infractions. Parce que c'est plus aussi sociale et parce qu'on n'a pas cette... C'est pas encore très avancé, la question de l'intersectionnalité en France. Et donc, je ne sais pas non plus si c'est la place du droit que de souligner l'intersectionnalité, mais c'est vrai qu'en France, de manière culturelle et sociale, on n'a pas cette culture de l'intersectionnalité.
D'où le problème qui peut se poser également en termes de lutte justement pour la reconnaissance de certaines formes de discrimination, où des associations antiracistes et féministes peuvent être mises en concurrence par le biais des débats eux-mêmes. Et c'était le cas dans le rapport Crozon, c'était le cas dans le débat sur la loi égalité, par une secrétaire d'État par ailleurs. Et donc oui, la question se pose réellement et on doit faire extrêmement attention. D'ailleurs, Diane Russell avait pointé ce problème-là aussi, avait dit que justement les débats sur le féminicide ne devaient pas être réutilisés, instrumentalisés au profit de discours sexistes ou racistes ou homophobes par exemple. Donc je pense qu'on peut maintenir cette... Justement.
Tout à fait. Bien. Merci. Merci à vous. Nous allons donc vous présenter